Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Qu'est-ce qu'on déguste exceptionnel, puisque nous nous retrouvons ici au cœur d'Albi, sur la terrasse du Pontier, pour un Qu'est-ce qu'on déguste spécial Acadie, dans le cadre de ce festival Pause Guitare, qui nous accueille déjà depuis mardi. On a fait beaucoup d'émissions tous les soirs de 17h à 19h, ou je sais plus, enfin ou tard dans la nuit. Hier soir c'était jusqu'à 3h du matin. C'est étonnant ces émissions, comment ça peut se rallonger parfois. Et donc nous voici réunis avec Pascal Olivier, salut Pascal.
Salut à tous.
Avec Georges Bonfils, salut Georges. Et avec Gaël, salut Gaël.
Salut tout le monde.
Alors, nos invités aujourd'hui, ils sont nombreux, ils viennent de loin. Ils viennent donc de l'Acadie. On a avec nous, honneur aux dames, Isabelle Doucet-Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes chargée du développement des affaires chez Opportunité Nouveau-Brunswick.
Tout à fait.
C'est ça, vous nous expliquerez tout à l'heure.
Quelles affaires ?
De quoi ça parle ? Et vous nous parlerez plus particulièrement, vous, puisque c'est ça l'idée de Qu'est-ce qu'on déguste, hein, c'est de parler et de déguster en même temps. Vous nous parlerez du thé King Cole, qui est un thé qui vient de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, et qui apparemment est très populaire depuis
plus de 130 ans.
Depuis plus de 130 ans.
Est-ce qu'on va le goûter, ce thé King Cole ?
Oui, on va le goûter.
Sûr.
Ah, génial. Moi qui bois 2 litres de thé par jour, c'est super.
Christine Lavoie n'est pas encore avec nous, mais elle va nous rejoindre tout à l'heure.
Donc
j'attendrai qu'elle soit là. C'est elle la coordinatrice et de la stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale. C'est elle qui a emmené cette délégation d'artistes, et notamment Dominique Brault et son groupe Prenez Garde. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci d'être là. On a déjà un peu fait connaissance l'autre soir dans l'émission, et je suis bien content de vous avoir là parce que j'ai senti que c'était court l'autre soir et qu'on avait des choses à se dire.
Bah oui, on aime de parler, c'est sûr. Ça fait que, quand c'est trop court, surtout moi je suis un compteur à la base. Ça fait que, un compteur, c'est pas le commencer, qui le problème, c'est de l'arrêter.
Oh. Tant mieux.
Peur,
on va pas vous arrêter de suite. Daniel Léger est là également. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être là à nouveau. On s'est déjà aussi rencontré un petit peu plus tôt dans la semaine. Alors, vous, Daniel, aussi, c'est la chanson, mais aussi le cinéma, ancien prof d'histoire, globe-trotteur. Et puis, vous êtes tous des fervents porte-parole de l'Acadie. Alors, j'ai oublié de dire que Dominique nous parlera du gin Tuyo.
Le gin Tuya.
Il est là, il est dans la bouteille. Un gin Tuya qui vient d'une petite distillerie bio. Pareil au Nouveau-Brunswick.
Et qui a eu plein de médailles d'or en plus. Ouais. Attends, c'est pas de la gnognotte. Hein. Médaille d'or à San Francisco.
Voilà, oui. Alors il paraît qu'il faut le déguster 50% de gin, 50% eau fraîche.
Ça dépend de ton humeur.
Ouais, j'ai déjà bu de l'eau tout à l'heure, donc c'est bon.
On peut le faire en morceaux, c'est-à-dire que tu prends d'abord l'eau et après le gin. Ou voilà.
Ça l'a appelé gin Tuya, c'est parce que si tu n'y as pas goûté, t'as manqué quelque chose.
Bon, voilà. Tu y as droit. Ce soir, on va le déguster. Yves Laforge est avec nous. Yves, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes recruteur pour l'université de Moncton.
C'est exact.
Voilà, une université au Nouveau-Brunswick.
Avec ses trois campus à... Dans les quatre coins du Nouveau-Brunswick. Dans les trois coins, je devrais dire.
Ils prennent que les filles blondes de 1m80 et plutôt du Nord. Voilà. Comme recruteur, il fait ça. C'est bien.
Alors, vous nous présenterez, entre autres, les galettes à la mélasse, qui est une spécialité aussi. Hein.
Sûrement. Moi, je me suis préparé pour tous les plats.
Moi, je vous parle.
Daniel a les galettes.
Ah, voilà, les galettes à la
tous
mélasse.
Tous les plats, hein, ma grand-mère en faisait. Donc.
D'accord. Oh, voilà. Daniel, ce sera les galettes à la mélasse. Moi, la mélasse, c'est un truc, bon, il faudra m'expliquer. Bah, ça tombe bien, on va avoir des explications.
On aurait pu avoir la poutine à la mélasse et au lard, mais là, c'est les galettes à la mélasse.
Et Isabelle Doucet, je vais y arriver. Christine Lavoie qui nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Coordinatrice, je l'ai dit tout à l'heure, de la stratégie de promotion des artistes. Alors, vous allez nous parler de...
De quoi ?
De la ploye.
Des ploye. C'est une galette de sarrasin, en fait.
D'accord, bon, ça, nous on connaît, on en a plein en Bretagne.
on a vu la recette.
C'est son origine.
C'est son origine, d'accord. Eh bien voilà, donc on va déguster des ploys, on va déguster du gin, on va déguster du thé, on va déguster...
Des trucs à la mélasse, oui.
Des trucs à la mélasse. Et puis aussi, je sais qu'il y a un truc tout à fait étonnant, des coques en dans un bocal là. Il paraît que vous êtes friand de ça au Nouveau-Brunswick. Vous nous expliquerez tout ça. L'idée, c'est de faire connaissance, de parler justement de vos traditions. Et de
voir... voilà, peut-être expliquer où c'est aussi. Parce
et
que
puis,
là.
Mais justement.
Voilà. C'est où cette affaire-là,
c'est, figure-toi que c'est pas au Canada. Non, si, c'est au Canada, c'est pas
oui,
au Québec.
Mais oui, c'est au nord. Mais il va nous expliquer tout ça. On commence un peu en musique ou quoi?
On commence un peu en musique, puisque des verres sont arrivés et qu'on va pouvoir s'envoyer un gin déjà pour commencer.
Déjà, à la chaleur comme ça. Ah,
c'est oui. Qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça. Oui, du jazz,
Si on lui met pas un parasol, il va pas finir l'émission. Thank you.
Santé, santé. Tu pourrais dire que j'ai.
Oui,
Chin-Chin. Chin-Chin. Chin-Chin, Colin.
Cette année, il n'y a pas de jazz à Montauban, mais il y a une actualité jazzistique dans la Tarn-et-Garonne. À Nègrepelisse, ce dimanche soir, le dimanche 12 juillet, place du Château, il y a le vibraphoniste Danny Doris. Danny Doris a commencé par le piano et le saxophone. Puis le vibraphoniste Joe Daly lui a fait écouter Lionel Hampton. Il a dit « Je veux jouer de cet instrument ». Et depuis, il est considéré comme un des meilleurs vibraphonistes du monde. Il a d'ailleurs fait une tournée avec Lionel Hampton. Et il nous régalera samedi dimanche soir à Nègrepelisse avec le saxophoniste Manu Dibango.
Question déguste. Spécial Acadie, depuis la terrasse du Pontier, place du Vigan, à Albi, dans le cadre du festival Pause Guitare. Parce que depuis toujours, le festival Pause Guitare a des liens artistiques avec le Québec et avec l'Acadie. Ça, peut-être, on pourrait commencer juste par avoir un petit éclaircissement là-dessus, si vous voulez bien. Christine Lavoie, hein, ça serait pas mal, ça.
Oui, oui, ça fait en fait plusieurs années qu'on travaille avec le directeur du festival, M. Alain Navarro, qui vient nous voir à tous les ans comme ça en Acadie, dans le cadre de la Francofête en Acadie. C'est une rencontre de professionnels où on présente une cinquantaine de vitrines d'artistes acadiens et francophones, d'ailleurs au Canada. Et à chaque année, comme ça, Alain invite des artistes acadiens qui voient la Francofête.
Est-ce que vous lui avez fait goûter le gin à Alain Navarro?
Pas encore, mais ça va venir.
Là, il repart plus en France, il reste chez vous.
Hein. Il doit passer, hein. Alain doit passer nous voir dans le courant de cette émission.
À mon avis, il y a du gin, il a dû le sentir, il doit être en route là.
Alors, ce gin, vous pourriez nous le présenter, Dominique?
Ah oui, écoute, c'est un jeune homme. Moi, j'ai 50 ans, ça fait que je pense que c'est la trentaine. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années qui était un fervent de bière. Il fabriquait sa propre bière. À un moment donné, il est tombé sur l'idée de se partir une distillerie. C'est parti, c'était tout petit. C'était un bel petit endroit d'un petit village perdu, pas loin de chez nous. Petit paquet de ville. Et puis, il a présenté ses produits à divers salons qui font des dégustations, qui remettent des prix. Écoute, il gagne des prix d'année en année depuis ce temps-là.
Ouais. C'est assez récent, hein? C'est quoi, 2012?
Oui, c'est très récent.
Et pourquoi le gin? Est-ce que c'est une boisson particulièrement appréciée?
Oui, c'est sûr. Au Nouveau-Brunswick, c'est sûr. C'est un remède, en réalité, de cela.
Tu mets de l'eau chaude pour... Le gin, c'est fait avec du genévrier, donc ça doit pousser en poison, en Acadie.
Oui. J'allais pour te dire, c'est un remède pour toutes les sortes de maux. Si t'as la toux, tu mets de l'eau chaude...
Ça marche.
Comment?
En bain de pied ou en bain de siège peut-être.
Ça ouais, peut ouais, ben là tu peux pas le boire après là. Mais...
Ouais, c'est un peu. Non, c'est un peu
j'aime mieux de le boire. Moi, j'aime mieux qu'il passe par en haut quand même. Voilà.
J'ai pour les pieds. Ou pour... Ouais.
Non, mais c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas dans la région chez nous. Il faut dire qu'une distillerie, c'est quand il arrivait avec ça, avec cette idée là, c'est assez innovateur parce que le monde se disait ben voyons donc, c'est pas commun, tu sais là. Puis, dès les premières années, tout de suite, il gagnait des prix, Ça fait que c'est assez intéressant. C'est un produit qui va se retrouver, dans les magasins d'alcool au Nouveau-Brunswick.
Mais on en trouve en France ou pas?
Non, pas tout de suite.
Il va falloir s'en faire envoyer.
Il va falloir travailler là-dessus.
Ouais. Parce que je pense que ça gagne à être connu.
Tu dis que ça se fait avec du genévrier. C'est quoi exactement la recette? Comment ça marche?
Donc,
il faut qu'il fasse pousser du genévrier.
Je le sais, moi, que, écoute, au début, OK, c'est peut-être un secret d'une recette, mais je le sais qu'il y avait une question de betteraves. Il faisait pousser des énormes betteraves.
Il y en a aussi.
Oui, c'est ça.
Il y en a aussi.
Et je pense que c'est là qu'est le secret de sa recette.
D'accord. Ouais. Un mélange.
Je ne vais pas tout dire, par exemple, parce que j'étais défendu d'en parler. Mais alors,
normalement, c'est des...
C'est le gin qui me fait parler comme ça.
Le gin, c'est des baies de genièvre qui sont macérées, qui sont distillées. Et ouais. Là, je suis allé voir sur son site, le site de la distillerie. Donc lui, sa spécificité, c'est un mélange de baies de genévrier, de baies de genièvre avec de la coriandre. C'est ce qui donne sa, la typicité donne ça, ouais. à son jean Tuya. Mm-hmm.
Et alors, c'est vrai que là, on l'a juste rallongé 50% de jean, 50% eau fraîche.
Ah bon, tu as fait ça, toi ?
Moi, j'ai fait ça et non, je trouve que c'est...
C'est pas tout le monde qui a fait ça, hein.
Non, non, moi, j'ai mis juste une glaçon, c'est tout.
En parlant de jean, alors, ça fait partie des alcools que vous buvez à l'apéro. Est-ce que vous buvez l'apéro au Nouveau-Brunswick ? Est-ce que c'est une coutume qui existe là-bas ?
C'est pas une coutume dans les régions. Peut-être en plus en ville, mais dans les régions comme par chez nous, c'était pas une coutume.
Dire. On boit pas l'apéro. On boit pas un verre avant de passer à table.
On boit tout le temps, nous autres. C'est n'importe quand. Il n'y a pas de moment précis. Non, mais je sais que le gin était une boisson qu'on buvait beaucoup. C'est comme...
hors jean, ok hors pour jean, le jean, ouais. Mais je sais pas, nous ici plutôt dans le sud de la France, et plus on va aller vers Marseille, on va aimer le pastis, tu vois, l'apéro,
oui, oui.
On va chez Georges, à chaque fois qu'on fait un apéro, c'est plutôt whisky, parce qu'il est grand amateur de whisky, mais on va avoir pour les femmes plutôt de la Suze par exemple, du Sanzano, ça existe encore le Sanzano ? Ouais, ça doit exister.
Ouais, tu vois,
différents alcools qu'on va pouvoir boire entre copains avant de se mettre à table.
Non, nous c'était plutôt de la bière.
Ouais.
On est des gros buveurs de bière, des quand amateurs
dis,
de bière,
quand
oui.
Quand tu dis c'était plutôt, ça dit que vous buvez plus quoi.
Non,
au Nouveau-Brunswick, tout le monde arrête.
On boit encore, mais c'est juste qu'on veut pas en parler trop, c'est là.
Alors, je voudrais peut-être qu'on revienne une seconde pour dire où c'est tout ça, parce que c'est vraiment du Canada.
Oui.
Donc l'Acadie, ça se trouve où?
L'Acadie, ça existe plus, malheureusement.
Oui, depuis 1755.
Exactement.
Rayé des cartes.
Mais l'Acadie, c'est un pays sans frontières. Où il y a un Acadien, il y a l'Acadie à petite dose. Ça fait qu'il y en a partout un peu, tu sais. On a voulu les éliminer, on les a éparpillés, nous autres,
donc,
on dit.
Le berceau,
la baie Sainte-Marie qu'on pourrait...
Voilà, le golfe du Saint-Laurent.
C'est ça. Non, même pas ici.
Il y a le Saint-Laurent là.
Ouais, mais c'est plus en bas. Baie de Fundy. Tu vois-tu la baie de Fundy?
C'est où, la baie de Fundy?
C'est là qu'est le berceau de l'Acadie.
Voilà, d'accord.
C'est ça. C'est là qu'étaient les premiers arrivants.
Donc c'est voisin avec le Maine qui est aux États-Unis.
Exactement.
Et là il y a le Nouveau-Brunswick, donc il y a la frontière entre les deux. La Nouvelle-Écosse, Nova Scotia avec Halifax.
Exactement.
Puis après on a l'île du Prince-Édouard, on a l'île d'Anticosti, on a
et l'île de la Madeleine.
Saint-Pierre-et-Miquelon qui est pas loin.
Voilà. Oui.
Voilà. Ça part.
Oui. Et c'est ça le berceau de l'Acadie, c'est la baie Sainte-Marie, c'est en Nouvelle-Écosse en réalité, mais après la déportation. Les gens s'étaient sauvés, ça fait qu'on a monté plus au nord. C'est pour ça que le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, l'Est du Québec, c'est tous des Acadiens de souche qui se sont établis là après la déportation, en montant par en haut Sainte-Anne, qui est aujourd'hui la capitale du Nouveau-Brunswick, qu'on appelle Fredericton, mais à l'époque c'était Sainte-Anne.
Et donc, aujourd'hui, une forte identité culturelle.
Oui.
Une forte identité gastronomique. On mange des trucs chez vous qu'on ne mange pas chez les voisins?
C'est sûr. On a été obligé de se débrouiller avec ce qu'on avait, c'est sûr.
Alors, ce qu'ils ont, les pauvres, c'est du homard. Yves Laforge est en train... Voilà, de montrer là un joli plat qu'on va prendre en photo ici et qu'on mettra sur notre page Facebook et sur le site de la radio. Ce sont comme des petits sandwichs. Omar, comment ça s'appelle? Présente-nous ça, s'il te plaît.
Chez nous, en fait, on utilise beaucoup l'expression anglaise « lobster roll ». C'est commun de le prononcer comme ça, mais partout où on va, on entend « Guidi de Omar, Guidi Omar ». Et c'est vraiment un sandwich. C'est pas le pain qui est important, c'est le homard. Donc, c'est de ça dont on s'occupe, puis on l'aime beaucoup. Tellement que McDo a essayé de s'en approprier dans les Maritimes. Et cette année, pour la première fois, McDo le distribue partout au Canada. Mais attention. Attention, parce que McDo ne peut pas tromper son client avec des sandwichs à la viande de homard. Elle ne peut pas, parce que l'ingrédient principal, c'est le homard. Dès qu'ils essaient de mettre un peu trop de céleri, ou un peu trop de mayonnaise, ou même un peu trop de lait dessus... le client sera pas content et va le ramener. Donc, c'est peut-être la seule chose chez nous qu'on trouve que McDo fait bien, c'est nos sandwichs au homard. Et c'est pour une durée limitée, hein?
C'est à peine un ou deux mois pendant l'été.
Mais vous touchez des royalties là-dessus
ou
pas?
Il bosse chez McDo.
Ah, en plus!
Il aurait fallu avoir des droits d'auteur. Il aurait fallu avoir des droits d'auteur, absolument.
Alors on le goûte?
Absolument, allez-y, allez-y.
Le homard, c'est un vecteur économique important pour le Nouveau-Brunswick.
Très important. Ouais. C'est un produit de la mer, le plus exporté, surtout en Asie, mais beaucoup en Europe.
Et c'est du homard de compétition, c'est du homard d'élevage? Comment ça marche?
Non, c'est du homard pêché dans l'océan Atlantique et dans la baie des Chaleurs.
Il y a une rivalité dans différentes régions du Nouveau-Brunswick parce que il y a les fonds marins, il y a deux fonds marins. T'en as un qui est un peu de roche, donc rocailleux, et t'en as un de sable. Et là, c'est lequel des deux homards qui est le meilleur?
Parce que les coquilles ne sont pas pareilles.
C'est celui de roche.
Il y a les coquilles dures et les coquilles molles en fonction des fonds marins.
D'accord.
Apparemment que la coquille molle est meilleure. Apparemment.
Ça, c'est du homard sauvage. Comment vous faites?
Oui.
Il n'y a pas d'homard d'élevage, mais comment vous gérez la ressource? Est-ce que c'est...
Ça se génère toute seule.
Oui. Et c'est très surveillé.
Oui.
Mais on a essayé l'élevage de homard à un moment donné. On avait une usine qui a essayé de faire ça dans les années 40, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas...
Il y a quand même des quotas de pêche.
Exactement.
Puis les saisons de pêche, c'est quoi la saison de pêche?
Il y a des saisons. Il y a des saisons. Le printemps, c'est le nord du Nouveau-Brunswick, un petit peu plus. Après ça, un petit peu plus tard, ça va tomber dans le sud du Nouveau-Brunswick, où le homard est moins bon. Je viens du nord. Et puis après ça, durant l'hiver, complètement dans l'hiver, c'est les gens de la Nouvelle-Écosse. Eux autres, ils vont pêcher décembre, novembre, décembre, janvier. C'est quand on veut avoir du homard pour Noël, ben on va à Halifax, on va chercher du homard.
D'accord.
C'est divisé comme ça, mais c'est très surveillé. Puis les pêcheurs de homard sont très, très, très respectueux. T'sais, ils vont vraiment surveiller la grosseur du homard. Il y a des réglementations.
Oui, mais si vous exportez vers l'Asie, c'est quand même une pêche industrielle, on est d'accord?
Oui. Il y a des grosses quantités, c'est sûr. Ouais. Mais c'est parce que c'est bien, bien surveillé. Puis si que maintenant, comme moi, tous les débuts de saison, il y a un pêcheur qui m'invite la première journée, c'est parce que c'est là qu'il y a plus d'ouvrage. Fait, je vais travailler avec lui. Puis tu sais, quand je garde les gens pêcher, c'est vraiment du respect. Ils vont regarder si c'est une mère, ils vont voir les œufs en dessous de la queue, ils vont la remettre à l'eau.
Comment ça se pêche?
Ça se pêche avec des casiers.
Ouais. Là, il y a un micro par terre, attention le micro.
Ça, c'est le gin qui fait ça. Ça va passer. Oui, c'est des cages d'à peu près 3 pieds, ça donne comment? Un mètre de long. Ouais, avec du filet, avec une porte. Le homard, lui, il avance seulement. Quand il vient pour reculer, il ne peut pas. Fait qu'il est pris dans la cage.
Ah d'accord, il ne sait pas reculer. Le homard ne sait pas reculer.
Il recule, mais il n'y a pas de rétroviseur. Fait qu'il ne sait pas ce qu'il va vraiment.
Il y a deux yeux.
Non, c'est vrai, il y a de la difficulté à
sortir. Donc il est trop large, il ne peut pas
ouais, c'est vraiment ça qui est le truc de la cage au homard. Ouais.
Un peu comme les crabes, là.
Oui,
les gros crabiers.
Un peu le même système, mais c'est beaucoup plus gros, les crabiers. C'est des cages de... Parce que 2 mètres carrés. Ça que...
Et le homard, il s'invite. Alors, vous l'exportez, ok, mais il s'invite souvent sur vos tables. Est-ce que c'est genre plat national, le homard? Est-ce que tous les dimanches, comme nous, on a un poulet frites, vous avez un homard?
Ça dépend vraiment des familles, je crois, parce que, en fait, ça dépend des régions aussi du Nouveau-Brunswick. C'est beaucoup plus accessible sur la côte que ça l'est plus dans les terres à l'intérieur. Et un sandwich comme celui-là, on en fait souvent, beaucoup plus. Par exemple, ma mère, elle peut manger le sandwich, mais elle ne peut pas manger le homard en entier dans l'assiette. Parce qu'elle voile l'animal. Donc, c'est un peu un problème pour elle.
Ouais.
Mais un sandwich comme ça, elle aime bien les préparer. Là, ceux que vous avez goûté, en fait, ce qu'on a mis dans... J'aimerais remercier, c'est Carole Chouinard, en fait, qui les a préparés dans la cuisine tout à l'heure. Merci, Carole.
Merci, Carole.
Merci. Et
parce qu'à la base, les Américains se sont un peu appropriés de l'histoire du lobster roll, donc du sandwich au homard, parce que quand on va en ligne, si on va sur Internet, on retrouve que l'histoire américaine et que ça vient du Connecticut et tout ça. Je suis désolé, mes chers amis, mais ça existait chez nous bien avant. Seulement qu'on on voulait pas le partager, on l'a gardé pour nous le secret, et les Américains sont allés mettre tout ça en ligne. Justement, le homard d'élevage, nous, on leur a donné. Ils essaient encore, que nous autres, on va pêcher. Donc, cette recette-là, du céleri coupé en dés, parfois de la laitue, mais pas beaucoup, juste un petit peu, de la mayonnaise. Les Américains, ils mettent du beurre. Ils mettent du beurre, mais nous, on n'en met pas. Et c'est dans un pain plus moelleux que celui que on vous a donné aujourd'hui.
Plutôt
mais...
pain de mie,
c'est
ce genre-là.
Un pain de mie, ouais.
Donc, le pain McDo, quoi, d'ailleurs.
Ouais, ouais, mais...
fait pas mal aux dents, là.
Oui. Oui, mais c'est toujours le homard qui est à plus de 50% dans le sandwich qu'il faut goûter.
Parce que moi, je connais quand même quelques boulangers du coin qui font des pains extraordinaires. Tu ferais sandwich avec les pains qu'on a ici, quand même. Je pense que ce serait quelque chose. Un bon pain complet, là. On n'a qu'à trinquer au homard, tiens. Alors, il nous a rejoint, le directeur du festival. Salut Alain. Alain Navarro est avec nous, comment ça va? Attends. Alors, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut me passer un micro, s'il vous plaît? Merci, Jack. Tiens.
Alors, oui, tout va bien. J'ai été très amusé à entendre parler de homard quand on disait que là-bas, on aimait bien l'animal entier. C'est un peu comme avec toi.
Alors, on parlait tout à l'heure. Avec Christine Lavoie, la coordinatrice et la promotion des artistes québécois, du partenariat qui a de longue date entre quoi?
Oui, c'est vrai.
C'est acadien.
Ah oui, j'ai dit québécois. Mais oui, mais c'est compliqué. Vous avez le même accent. Vous ressemblez.
Il nous ressemble, c'est drôle. Peut-être qu'on doit avoir des origines communes. Hein.
Non, mais c'est, effectivement, il y a un partenariat avec le Nouveau-Brunswick,
oui.
de longue date.
Eh bien, en fait, j'ai découvert la Francofête en Acadie il y a environ 5 ans. Et on est hyper bien reçu là-bas. Et c'est vrai que c'est une belle vitrine du talent du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, toute discipline et toute esthétique artistique confondue. Et c'est l'occasion de voir à peu près, je sais pas, une soixantaine d'artistes, de groupes en 4 jours.
Est-ce qu'ils chantent pas tous la même chose, les chanteurs acadiens et les groupes
de musique pour des tons,
acadiens Non, mais il y a une base commune. C'est un peu comme quand moi je vais dans un festival irlandais, je vais me faire tuer par les Irlandais, mais j'ai l'impression qu'ils jouent tous la même musique.
Non, mais c'est sûr qu'il y a le rythme. Le rythme est presque le même, mais écoute, les paroles sont différentes, l'arrangement est différent, les instruments sont pareils, par exemple. Non, mais tu sais, il y a tout chacun, à travers sa musique, a son histoire, a sa région, a sa famille, tu sais. Ça fait que nous autres, on reconnaît la différence. Peut-être que vous, c'est parce que vous nous invitez pas assez souvent.
C'est ça, mais va falloir revenir.
Vous allez tous être capables de découvrir ça au fur et à mesure qu'on va venir vous voir.
Prenez garde, on les reçoit tous les ans et tous les ans ça change. Hein.
Ouais. Moi j'adore ce qu'il appelle.
En plus c'est vrai.
La podorythmie. Parce qu'il fait le rythme avec ses pieds sur cette espèce de planche là.
On dit par genou, il tape du pied.
Hein, il tape du pied.
Il tape du pied.
Ouais, bah oui.
Ouais, c'est la podorythmie, c'est le nom que j'avais appris pour venir ici, ça là. Mais par genou, je dirais, je tape du pied.
La podorythmie. Ouais, non mais c'est toi qui me l'as dit l'autre jour.
Oui, c'est vrai. Aussi.
Comment tu trouves ce jean?
Écoute, j'ai pas encore goûté, puis je suis prudent avec les 36 degrés qu'il fait.
Non, tu vas voir, on a rajouté un peu d'eau. Ça rafraîchit. En fait, on n'a pas rajouté d'eau.
Waouh.
Pouh. C'est autre chose que le gaillac que t'as l'habitude de boire.
Ah oui, c'est vrai. Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs, peut-être Daniel Léger, je dis ça parce que justement, t'es venu léger avec ta guitare. Ce serait peut-être assez facile là de t'installer et de qu'on te mette un micro quand le train aura fini de passer. Il y a une moissonneuse batteuse qui passe dans la rue.
Oui, mais on l'a commandé. On l'a commandé parce que c'est le côté champêtre de l'Acadie qui est représenté par cette magnifique moissonneuse batteuse qui passe. Il y a des longs trains qui passent en Acadie, à Moncton. Oui. J'ai déjà vu des trains de plusieurs kilomètres. Et là, je me dis qu'on a de la chance de ne pas avoir des moissonneuses de batteuses aussi longues.
Parlez-nous de la géographie de votre pays, ou de vos pays, de vos contrées. C'est comment là-bas?
Il n'y a pas de grandes villes, tu comprends. Il y en a, là, mais tu sais, je veux dire, on est quand même 800 quelques mille habitants. C'est beaucoup régional. C'est beaucoup de petits villages qui sont tout près des uns des autres. Mis à part quelques grandes villes, Moncton, je dirais Fredericton, Saint-Jean, qui est là, que c'est des grosses populations plus. Là, mais,
Et les paysages, c'est quoi? C'est de la plaine? C'est montagneux?
C'est tout ça. Ouais. Parce que tu as la mer. Tu as la mer dans le côté est. Tout le long, on a l'autoroute, puis tu as la mer de ce côté-là. Dans les terres, sur le long de la frontière avec le Maine, tu as les montagnes, tu as les... différentes visuels au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment... Mais c'est grand, c'est espacé, tu sais.
Quand on habite la campagne, on habite loin de son voisin.
Oui, oui. Ah oui, c'est sûr.
Oh, c'est qu'à 3 heures, des fois.
Hein. Ah oui, oui.
Mais c'est 800 000 habitants pour une province qui est plus grande que la France, quasiment, non?
Un quart de la France.
Oui. Oh, non, calme-toi.
Donc, quand on a des voisins chiants, comme en France souvent, on en rêve.
Hein. Non, mais c'est ça. Il y avait un film américain, je ne sais plus lequel, où la personne disait, où est-ce que vous habitez? Ben, j'habite à 300 km. Ah, ben, vous êtes voisin, vous passerez voir le thé. Quoi.
Ce qui fait la diversité aussi du Nouveau-Brunswick, c'est la langue. Comprends-tu? C'est divisé presque. Le nord est beaucoup plus francophone. Le sud est anglophone, mais le centre, c'est presque un mélange des deux langues. C'est vraiment ça qu'il faut découvrir aussi. Tu sais, même deux villages voisins avaient des accents différents. Tu sais, à Caraquette, on mange du poulet. Puis à Bas-Caraquette, qui est le village juste à côté, c'est du poulet.
Oui,
c'est une sonorité différente. Ouais. À Chipagan, on parle différent qu'à Tracadie. Mm. C'est ça qui est magique avec le Nouveau-Brunswick aussi. T'sais. C'est pas juste le paysage et le territoire, c'est les gens comme tels.
Nous, fois, à CFM, avec Rémi, on a un boulet aussi, mais c'est pas un poulet, non?
Mais t'es venu en super forme, Alain. Attends que je chauffe, tu vas voir.
Un peu dans le bain, tu vas voir. Ouais.
D'ailleurs, je m'en vais, moi, que je veux pas le voir sortir du bain.
Comment se vit justement ce double langage, ce multiculturalisme là rapproché, comment, entre les anglophones, les francophones, les francophones, ou je ne sais quoi, etc.
Pour ma part, je suis du nord, okay? Je suis de la péninsule acadienne. On reste tout près de Bathurst, qui est une ville qui est 50-50 francophone anglophone. On n'est jamais beaucoup dérangé avec le fait qu'on va pas se faire servir en anglais ou en français, ou tu sais, on s'arrête pas vraiment là-dessus. C'est sûr qu'il y a des petites minorités, des petits groupes qui vont vouloir trouver des fois, mais je suis sûr que vous n'avez pas ici, là. Tu sais, il y a des gens qui cherchent les problèmes où il y en a pas vraiment, tu sais, là. Ouais. Mais c'est quand même une bataille, tu sais. Nos dirigeants, il y a des premiers ministres qui ont fait que nous, on a pu, comme minorité francophone, avoir des droits comme minorité, puis être capable de se faire servir en anglais. Il y a un texte de la Sagouine qui me vient à l'idée. Elle a dit, à un moment donné, elle avait eu une feuille du gouvernement. Elle a dit, c'était tout écrit en anglais d'un côté, puis en anglais de l'autre côté. Mais c'est plus comme ça, c'est en anglais pas en français. On a eu, heureusement, des gens qui sont occupés que les minorités francophones soient... Mais c'est rien qui fait une chicane majeure, mettons, tu sais, là.
Qu'est-ce qu'on déguste? Spécial Acadie, monsieur, dame, en direct de la terrasse du Pontier, place du Vigan à Albi, dans le cadre du festival Pause Guitare. On est drôlement bien accueillis par toute l'équipe et l'ami Alain Navarro qui doit repartir au boulot parce que...
Il y a du taf ce soir.
Il y a du taf là.
Ce soir, on a le Grand Théâtre avec une belle soirée très folk avec Zachary Richard, l'Acadien le plus... Malicorne et Bratch. Et une très très grosse soirée sur le site de Prat Rossal avec Frérot de la Vega, Soprano, Yannick Noah et Calogero qui est complète. Déjà 13 000 personnes.
Ouais.
Voilà, record.
Impeccable.
C'est nickel.
C'était chouette là les trois jours qu'on a passé au centre-ville pour le off.
Hyper fier du résultat. D'ailleurs, on le doit beaucoup à nos amis du New Brunswick qui ont énormément participé et œuvré à ce succès. Bravo, merci encore une fois.
Merci Alain d'être passé.
Oui, merci. Bon courage, ciao.
Bon courage, ciao Alain. Alors, c'est le moment, on lui a demandé de s'installer. Il est avec sa guitare, Daniel Léger, en direct sur CFM. Dès que la moto sera passée, on est place du Vigan, il y a du monde. Hein. Tout le monde se prépare au week-end, donc forcément... Il y a des bagnoles et des motos qui passent. Daniel, c'est quand tu veux.
Tilaradidam darilarae, valmo aime la fée des paédois. Tilaradidam darilarae, sacré verla aime la fée des paédois. Valmo aime le vieux fermier, s'est allumé un cigare tout gros tournant. Ce joueur de violon, ce vieux garçon, vient gagner un voyage là-bas à Cuba, n'a jamais sorti des limites du comté, peut pas dire un seul mot espagnol, n'empêchant pas de chanter des arrangeables, et comme il a l'habitude de le faire avec un peu d'alcool. Tilaradidam darilarae, Valmont a aimé la fée des paédois. Tilaradidam darilarae, sacré verre a aimé la fée des paédois. Ils se laissent entraîner par des airs salsa, citron, tequila, pina colada. Ils sautent debout puis dansent sur la table. Ils sentent que les vieux, il a des piles du rap. Tout déhanché, ils chantent à tue-tête, un two-step de violon sur des airs de trompette. Dilaradidam, dalilaray, Valmont a aimé la fée des paédois. Dilaradidam, dalilaray, sacré verre a aimé la fée des paédois. Valmont n'est pas vraiment à dans sa tête, tout est réel, il se croit là-bas. Mais les vieux aux châssis disent qu'il perd la boule. Il danse sur son tracteur et boit du Red Bull. Faute de la fordose de nicotine, est-il vraiment à blâmer s'il hallucine? On le pointe du doigt, mais il ne s'en fait pas. Il pense à faire mousson, aller chanter à Cuba. Tilaradidam darilarae, tilaradidam darilarae, tilaradidam darilarae, sacré verre, aimé la fée des paédois. Tilaradidam darilarae, Valmont a aimé la fée des paédois. Tilaradidam darilarae, sacré verre, aimé la fée des paédois.
Merci. Daniel Léger en direct dans Qu'est-ce qu'on déguste? Alors Daniel Léger, chanteur, cinéaste, globe-trotteur, prof d'histoire et amateur de galettes à la mélasse. Non, c'est vrai ou pas?
Oui. Eh bien, Valmont a aimé la fée des paédois, la chanson que je viens de chanter, ouais. Ça c'était mon père. Nous autres, chez nous, il y a tellement de Leblon et de Légère, que pour faire la distinction entre tout ce beau monde-là, faut dire le nom du père et du grand-père et de l'arrière-grand-père. Donc, on va dire Valmont. Comme moi, mon père, c'est Valmont. Donc, c'est Daniel à Valmont, à Émile, à Philippe, à Édouard, à Hippolyte, à Maximin, à François, à Joseph, à Jacques, à Jacques. Jacques était de France. Donc, c'est ça mon arbre généalogique. Donc, des fois, on se rend loin assez pour faire la distinction entre tout ce beau monde-là.
Puis, justement... Ça peut prendre du temps sur les présentations. Hein?
Oui, c'est ça. Puis, mais mon grand-père, lui, il avait pas de dents. Puis quand il mangeait, il avait tellement les gencives dures qu'il était capable de manger des galettes à la mélasse. Puis c'est ça, j'ai le souvenir de mon grand-père qui mangeait des galettes à la mélasse. Donc, c'est ça que j'apportais avec moi aujourd'hui. Là. C'est ça que ça ressemble. Les galettes à la mélasse.
On a aussi tout relié les choses, hein, parce que de la galette à la mélasse, ça se mangeait avec du thé.
Oui.
Avec le King Cole.
Ah!
Puis pour venir au nom, là, après la déportation, pour savoir de qui était l'origine du, de la personne, c'est pour ça qu'on nomme aussi des noms. Pour savoir de où ce qui venait.
Ouais, ouais.
C'est parce qu'on s'avait perdu de vue, là, pour 20 des années. Ça fait que ça, c'était une tradition qui a resté. Mais il y avait des familles de 10, 12. On était 10 chez nous. 10. Puis mon père, il était 12. Puis toutes les 12 ont eu, une badge d'enfant, comme on dit pour chez nous.
On a tous grandi avec ça aussi, parce que mes grands-parents, à la maison, pendant 80 ans, il y avait toujours des galettes à la mélasse dans l'armoire. Toujours, 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 toujours. On allait là, il y en avait. Oui, on servait.
C'est parce qu'il fait froid l'hiver qu'il faut faire des enfants chez vous?
Oui, mais le clergé aussi nous,
Oui, il y a le clergé,
nous obligeait. Il voulait peupler le pays. Hein,
oui, donc il fallait faire de l'enfant. Oui. Il fallait faire de l'enfant,
tu peux me frotter les jambes.
D'accord.
Si
donc des familles de 10-12, c'est courant encore?
Oui. Mais toutes mes mononcles, ma tante, à part qu'une de mes tantes, elle n'a pas eu, elle était religieuse. Fait que c'était pas dans ses.
Ah, ben alors là, la pauvre, là. elle était perdue pour le gosse.
Mais c'était une coutume. Là, c'est moins, là, parce que, tu sais, on voit des familles de 3, 4, 5.
Oui, mais il y a la télé maintenant.
Oui, il y a la télé, il y a tellement de choses à faire.
Il y a des choses à faire.
C'est parce qu'on a mis le blâme pendant longtemps sur le clergé pour les grosses familles, mais à l'origine, il y a un plat qu'on n'a pas fait aujourd'hui parce que c'est quand même une soupe qui est assez chaude qui s'appelle le fricot, qui est un genre de bouillon avec des patates, du poulet, des carottes, et il y a un ingrédient secret dedans qui s'appelle la sarriette.
La sarriette.
Et cette sarriette-là, autrefois, dans la région ici, était reconnue comme un aphrodisiaque.
Ah, d'accord.
Mais chez nous, en Acadie, le mémo s'est pas rendu, on l'a jamais su, et on mettait de la sarriette et on en mettait. D'où viennent les grosses familles?
Les grosses familles de 10, 12 gosses.
Voilà. Qui n'existent aujourd'hui parce qu'on mange de moins en moins de fricots, je pense.
Donc, et il y a de moins en moins de sarriettes.
Voilà.
On les goûte, ces galettes à la mélasse ou.
Ah bon, on va les ouvrir. Ouais. Oui,
oui. Je ne sais pas.
Ouais. C'est de valeur, vous avez
après,
pas.
Après, on ne fait peut-être pas dans le bon ordre parce qu'il y a ça aussi. Qu'est-ce que c'est qui est ici?
Ça, c'est des ploys.
Alors.
Ça, ouais. C'est typique.
Alors, on va en parler. On peut goûter ça. Attends, oups là. Tiens, tu vas en prendre la moitié avec moi ou même je vais en prendre qu'un quart. Non, parce que ça doit être un étouffe chrétien quand même un peu, non?
Gardez-en un petit morceau pour tremper dans le thé parce que le thé.
Ça prendrait le thé.
Ouais.
Parce que les vieux.
Ah, mais il faut attendre le thé, alors.
Ils sont molles, OK? Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les galettes à la menace étaient dures. Ouais. Fait qu'on les saussait dans le thé pour les ramollir.
Ça ressemble un peu à notre pain d'épices.
Oui, un peu, oui.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut le ramollir dans le gin?
C'est pas recommandé.
Ah, c'est pas recommandé, donc on va pas aller contre la tradition.
Parce que ça pompe tout le gin.
Ouais. Ouais.
On écoute un peu de jazz, tiens, le temps de justement goûter cette.
Oui, le vibraphoniste Danny Doris sera à Nègrepelisse dimanche prochain à 21h. Et c'est aussi le propriétaire du caveau de la Huchette. Le caveau de la Huchette, c'est le plus vieux club de jazz français qui a été ouvert en 1946. Et Danny Doris est devenu le propriétaire depuis 1970. Donc l'année prochaine, on fêtera les 70 ans du caveau de la Huchette. C'est un club de jazz où il y a de la musique vivante, avec des musiciens qui jouent tous les soirs et où des clubs de danse viennent danser. C'est très agréable quand on est musicien. J'ai eu l'occasion d'y jouer deux ou trois soirs. Il y a une dizaine d'années, c'est agréable de jouer pour des danseurs qui savent très bien danser le bop. Là, nous, on écoute Danny Doris dans un titre qui s'appelle Sophika Seyli. Thank you. Dani Doris en compagnie de Marcel Azoran, psychédélique Céline.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Donc on est là-bas, hein, dans le Grand Nord canadien. On est au Nouveau-Brunswick. On est pas mal au Nouveau-Brunswick. On a du gin d'une petite distillerie. Je sais pas si c'est même pas bio peut-être, tu vois. Je sais pas. Et puis là, on s'apprête à goûter des ploys. Alors là, des ploys, rien qu'avec un nom comme ça, on a compris que c'était de là-bas. Hein.
Des ploys du Madawaska. Donc, c'est une région au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
Madawaska.
Madawaska.
Mm-hmm.
Et alors?
C'est des galettes de sarrasin.
Ouais.
C'est fait, ce que j'ai apporté ici, c'est des galettes faites avec de la farine bio, avec un producteur local. Et on peut la servir soit salée ou sucrée. Alors, salé, on peut mettre du pâté que nous, on appelle des gretons, ou on peut mettre n'importe quelle autre sorte de viande. Mais ça se mange en accompagnement avec un repas, un peu comme du pain. Okay? Mais ça se mange aussi sucré. Alors, la façon traditionnelle de le manger sucré, c'est avec du beurre, du sucre d'érable, ou du beurre et du beurre d'érable. Alors, ça peut être une combinaison.
C'est riche
tout ça,
quand même, hein, à chaque d'érable. Fois. C'est... Vous êtes pas comment ça se fait? Vous n'êtes pas touché par l'obésité au Nouveau-Brunswick? Pas plus que ça?
Merci.
Le gin, ça dissout un peu les graisses quand
oui,
même.
Oui, c'est ça. Le gin arrange, arrange beaucoup de choses. Ça arrange les ménages, ça en défait par exemple.
Non, mais oui, c'est non, vrai, il y a beaucoup. C'est très riche, il y a du sucre, il y a du beurre.
Il y a tellement de choses. Ben oui, on travaille fort. C'était des bûcherons. L'hiver, il y a 2,5 mètres, 3 mètres de neige. Il faut pelleter.
Il faut courir après les homards aussi.
Oui. Mais c'est moins pire. Les plus gros homards, ils tiennent la cage dans le pâte.
Ah oui, ils collaborent en plus.
Oh, oui.
Mais c'est vrai parce qu'au Madawaska, en fait, c'est une région des forêts. Alors, c'était des bûcheux, c'était des hommes qui montaient en montagne, dans le bois, pour aller travailler des hivers durant. Puis ça, c'était un des plats qui les accompagnait parce que c'était justement facile à apporter avec eux. C'est que de la farine. La farine et de l'eau.
La farine et de l'eau.
Oui, farine
et de la préparation était facile, ça fait que...
Ils étaient capables. Et c'était cuit sur le poêle à bois.
Mm-hmm. Attends, je goûte, du coup. Hop! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, alors? C'est roulé avec... qu'est-ce qu'il y a?
C'est roulé avec du beurre frais et du sucre d'érable.
Ah oui, donc c'est sucré, là.
Oui, ça, c'est une préparation sucrée.
Ça, avec le gin, tu vas voir, ça fait... C'est comme une bombe.
Ah ouais, quand même, hein.
On en fait aussi avec du croton. Du croton, ça ressemble un peu à des rillettes avec du porc et beaucoup de gras.
D'accord.
Oui, pour les hivers frais.
Je pense que chaque famille les préparait différemment aussi.
Exactement.
Parce que chez nous, ma grand-mère, c'était jaune. Les galettes, elles étaient vraiment jaunes. Ma mère s'est essayée une fois. Elle a eu tellement honte parce qu'elle a manqué ses galettes. Elles étaient devenues grises et dures comme de la roche que finalement, elle n'y a jamais retouché. Il n'y a que ma grand-mère qui les faisait. Donc, ça dépend vraiment des familles. Ouais.
Il y a des ustensiles spéciaux pour des poêles spéciales pour travailler les galettes ou pas?
Chaque famille a sa poêle à ploye,
ouais.
Mais aussi sa guenille à ploye. Fait que sa guenille à ploye, c'est un morceau de tissu qu'on embête d'huile et avec laquelle on nettoie la poêle pour préparer la prochaine ploye.
La guenille.
Oui, la guenille à ploye.
On farte la poêle.
Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Oui.
Comme les surfeurs. Bien sûr qu'il marche.
Et aussi, après avoir travaillé tout l'hiver comme ça dans le bois, les bûcherons chez nous, dans l'ancien temps, après, ils faisaient le temps des sucres. Ça fait que c'est un peu pour ça que le sirop d'érable accompagne la ploye, parce que à la fin de la saison, au printemps, c'était le moment là où ils faisaient les sucres, ils faisaient le sirop d'érable, le sucre d'érable. Et le sirop d'érable, ils faisaient pas de sirop d'érable à ce temps-là, c'était vraiment le sucre d'érable, c'était des briques de sucre concentrées. Comme ça pouvait se garder pendant l'année.
Mais ça ce que tu appelais tout à l'heure les bûcheux, c'est-à-dire oui. Bon, les bûcherons, ça existe toujours ou alors ça n'existe plus chez vous?
Ben, mon père travaille toujours dans la forêt, mais c'est plus comme avant. Hein.
Il part maintenant, ils ont des engins.
Ils ont des engins, ouais, c'est ça.
Mais absolument, ma famille, moi, on appartient beaucoup de terre à bois, puis on travaille le bois, ça c'est sûr.
Et la tradition des ploys, c'est resté chez les bûcheurs?
Oui, c'est resté. Et chaque famille a sa recette, comme disait Yves tout à l'heure. Ce que je vous ai apporté, c'est la recette du côté paternel. Mais la recette du côté maternel, c'est une toute autre recette différente. Et les deux ne se ressemblent pas du tout. Puis chacun se dit, non, c'est la mienne la meilleure. Non, c'est la mienne la meilleure.
Donc, il y a une tradition très, très familiale,
oui.
Finalement.
Oui, à propos de la ploy, oui.
Oui, parce que tout à l'heure, tu nous as dit qu'on pouvait le faire avec des espèces de rillettes ou
de
pâtés.
Des cretons, voilà. Oui.
Comment tu appelles ça?
Des cretons.
Des cretons.
Oui.
Des cretons.
Des cretons, oui.
Préparer
ouais.
Maison.
Ouais. Comme puis des gratons ici ou des... Voilà, des... C'est fait avec du porc, ça?
Oui, c'est fait avec du porc. C'est l'équivalent de la rillette, un peu, comme ici.
C'est quoi le repas de midi au Nouveau-Brunswick? Et c'est quoi le repas du soir? Et c'est quoi le petit déjeuner? Allez, on fait les trois.
Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des pommes de terre.
Ah.
C'est la pomme de terre, nous autres, par chez nous, la patate, on la faisait de toutes les façons imaginables. Il y avait la rapure dans le sud.
C'est ce que vous appelez la rapure,
La rapure, ouais, ça, c'est en Nouvelle-Écosse, il y a des poutines râpées aussi.
Voilà, des poutines, oui.
Les poutines râpées qui est faites avec un mélange de patates cuites et de patates crues râpées, avec un petit peu de porc à l'intérieur, puis ou du bœuf. Puis on fait bouillir ça, c'est toute une préparation. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que chaque région du Nouveau-Brunswick, on dirait, a sa spécialité culinaire.
Donc, chez toi, un repas, le petit-déjeuner, c'est quoi?
Le petit-déjeuner, ça, c'est-tu le premier du matin?
Oui.
Ok, ça, c'est un petit peu partout, comme partout, c'est des œufs, du bacon, des œufs frais, j'ai des poules, fait que...
Très anglo-saxon.
Enfin, oui.
Alors, à midi,
c'est là qu'on mangeait habituellement, comme chez nous, par chez nous, c'est de la viande. C'est là qu'on mangeait la viande et les patates. Parce qu'on avait une grosse après-midi de travail. Puis,
donc il fallait remplir.
Oui, c'est la viande, voilà. Les légumes.
Il fallait nourrir l'homme.
Comme tu disais tantôt, avec le poulet,
le fricot.
La viande se mangeait sur l'heure du midi.
Et donc la viande, c'était quoi? C'était du cochon? C'était plutôt
cochon,
du cochon,
de la poule, du bœuf. La poule était pas mal présente.
Beaucoup
puis
de poulet.
Puis après ça, le soir, on mangeait le poisson.
Ah, le soir, le poisson.
Ouais.
Quand on avait bien travaillé dans les bois, les bûcheux le soir.
Oui, puis le poisson, c'est moins... On va dire comme les vieux de par chez nous, c'est moins pesant.
Oui, c'est moins pesant.
D'ailleurs, tu vas te coucher,
c'est
là,
quoi,
tu
comme
peux
poisson?
Dormir. Maquereau, la morue, les perlans, le saumon, la truite.
Le flétan.
Oui, le flétan, un petit peu, là, mais c'est pas quelque chose qui a été vraiment populaire. D'accord. Il y avait le homard. Le homard, avant que ça ait été popularisé, c'était le mets des pauvres. Tu sais, le petit gars qui allait à l'école puis il amenait son sandwich au mort, c'était le mets des pauvres. C'est parce que c'est que ses parents n'avaient pas le moyen d'y acheter du ballonné.
D'accord.
Ils n'avaient pas le moyen d'acheter de la viande.
Il allait pêcher.
Oui, il allait pêcher le homard puis on mangeait. C'était le
mais
il n'avait tellement... Mon beau-père me contait qu'il mettait ça dans le jardin pour faire de l'engrais. Il y avait tellement de homard que...
Oh. On mange à table, en famille, il y a une tradition de manger ensemble ou pas?
Oui.
Est-ce que ça, c'est resté parmi les traditions venues d'ici? Quoi.
C'est resté, puis même que quand on fait une fête de famille, c'est à l'entour d'un vrai gros repas. Là. Un vrai gros repas qui va en rester, t'es sûr. C'est sûr qu'il va en, ouais. il en aura tout le temps trop. C'est une tradition. Toutes les familles, même si ils sont mariés, arrivent avec leur plat à la maison familiale, avec la maison, à la maison du père pour faire. Puis on avait des occasions. C'était Pâques, c'était Noël, c'était le jour de l'an. C'était à toutes les occasions qu'on avait de se rassembler puis de faire un gros repas, mais c'est vraiment ça.
Est-ce que vos traditions familiales ou traditions acadiennes, vous sentez qu'elles foutent un peu le camp et bouffées un peu par la mondialisation ou par le côté anglo-saxon, ou vous êtes encore très, très acadien?
Non, moi, pour ma part, moi, je trouve qu'on est très, très acadien. Tu sais, comme moi, j'ai un grand jardin, ben, j'irai pas travailler dans le jardin. C'est toute la famille, c'est tous mes enfants qui vont venir, les petits. On va travailler beaucoup. On appelait ça faire des corvées à l'époque. On pouvait aller sur le voisin. Si le voisin a besoin d'un coup de main, c'est encore resté dans la péninsule acadienne, c'est encore comme ça. On aime cette tradition-là. Si quelqu'un a besoin d'un coup de main, a besoin de la main-d'œuvre, c'est les voisins, c'est même ceux qu'on n'aime pas, on les fait travailler plus fort.
Au-delà de la famille aussi, c'est instauré au fil des ans dans le système scolaire francophone, vraiment une protection. Dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick, c'est interdit de parler en anglais. On nous empêche. Oui, absolument. Et les enseignants, moi j'ai été enseignant dans les écoles et c'était la même chose. On fait attention, on leur dit, fais attention, parle-nous en français. Il n'y a que dans le cours d'anglais où on parle anglais. Et de là, nos traditions, nos coutumes, nos origines, notre histoire.
D'accord, il y a une vraie volonté politique et globale de maintenir à la fois la langue et donc la culture qui va avec.
Ah oui, plus qu'on allait avec les années, il y a eu un temps où la déportation, on n'en parlait presque pas. Puis il n'y a jamais eu d'époque où on en parlait trop. On a juste parlé assez pour être conscient que nos ancêtres avaient travaillé très dur pour garder ce qu'ils voulaient que nous autres en ait comme style de vie, comme façon de vivre, puis on a respecté ça. C'est une question de respect aussi, c'est important.
On continue de parler de l'Acadie en direct depuis la place du Vigan, depuis la terrasse du Pontier. On est bien, on est au soleil, mais il commence un petit peu à y avoir un peu d'ombre. C'est pas mal. Ou alors c'est les effets du gin, tu y as. Je ne sais pas. On se retrouve dans quelques instants après les infos. Il va y avoir de la musique parce que comme il se resserre un coup de gin, je pense bien qu'il va aussi chanter Dominique Bro. A tout de suite.
CFM de Cahors à Albi. De Cahors à Albi. L'esprit rock. CFM. CFM. Il est 18h. Envie de cuisiner à la plancha ce soir? Contactez vite les Maîtres du Feu, avenue d'Espagne à Alba Sud Montauban. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence. CFM. Toute l'info Normidie-Pyrénées.
Bonsoir à tous. Fin de l'enquête sur les tueries de Mohamed Merah en 2012. Les juges antiterroristes ont mis un terme à leurs investigations sur les assassinats de Mohamed Merah, le tueur au scooter qui avait tué au nom du djihad 7 personnes entre le 11 et le 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban. Après 3 ans d'enquête, 3 personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont le frère aîné du tueur, Abdelkader Merah, pour complicité d'assassinat. La sécheresse, principale cause de colère pour les agriculteurs tarn-et-garonnais, agacés par les restrictions d'eau, ils ont jeté dans le Tescou une dizaine de bottes de paille pour faire mine de construire un barrage. Leur objectif, rappeler combien il est nécessaire, selon eux, de construire le barrage de Sivens, un projet pourtant stoppé pour le moment après les nombreuses oppositions écologistes. Depuis quelques jours, la rivière du Tescou est à un niveau très bas en cette période de sécheresse et la préfecture pourrait en interdire l'usage à des fins d'irrigation dès la semaine prochaine. Sylvia Pinel en visite officielle à Montauban pour signer 2 contrats de ville. La ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité s'est rendue à la mairie montalbanaise ce matin. Elle a notamment participé à la signature des contrats de ville de la Cité d'Ingres et de Moissac. Les Aveyronnais exilés à Paris auront désormais leur guide. C'est le Petit Futé qui le met sur le marché. Cette année, le Petit Futé lance sa 17e édition consacrée aux bars et restaurants à retrouver en Aveyron, ainsi qu'un supplément des 80 premières pages du livre avec les bonnes adresses aveyronnaises, mais sur Paris. Le calendrier de Pro D2 dévoilé hier, première rencontre pour les Montalbanais, ce sera le 22 août avec un petit déplacement à Colomiers. L'USM recevra ensuite Biarritz le 28 août et Aurillac le 4 septembre. Enfin, la 42e édition du rallye de l'Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées, elle débute aujourd'hui. Elle se tiendra jusqu'à samedi à la salle des fêtes de Rodez. Plus de 120 équipages sont inscrits. Toutes les informations sont disponibles sur le www.rallyrouergue.com. Voilà pour l'essentiel de l'info sur CFM. Excellente fin de journée à tous.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7. 3 ans de prison et 9000 euros d'amende. Ça vous tente? C'est ce que vous encourez si vous conduisez sous l'emprise d'alcool et de drogue. En 2014, en Tarn-et-Garonne, 20% des accidents mortels sont liés directement à la consommation de produits stupéfiants et 37,5% liés à l'alcool. En plus des morts, il y a la souffrance des blessés et de leurs proches. Tout ça pour un délire. Et si vous étiez le prochain? En 2015, bannissez la drogue et l'alcool au volant. Parce que conduire ne peut pas rimer avec délire. Sécurité routière, tous responsables.
Du 6 au 12 juillet, Pause Guitare investit Albi. Pause Guitare, un événement incontournable en Midi-Pyrénées avec plus de 60 artistes. Assaf Avidan, Bob Dylan, Angus et Julia Stone, Étienne Dao ou encore Status Quo, Moriarty, Hugo Frey, Malicorne et plus de 20 concerts gratuits. Du 6 au 12 juillet à Albi, venez vivre un moment inoubliable pour le festival Pause Guitare. Pause Guitare Albi, du 6 au 12 juillet à Albi. Informations et réservations sur pauseguitare.net.
Musique, danse, spectacle enfant, art de rue, le festival Montauban en scène est ouvert tout le mois de juillet pour la première fois. Venez découvrir 40 concerts et spectacles sur les places emblématiques de la ville de Montauban. Du 16 au 30 juillet, place au festival In avec Black M, Véronique Sanson, Michel Leb, les ballets jazz de Montréal, Montauban en scène, c'est aussi un festival off. Robin Bennett, Émile et Images, Budapest. Vous ne voulez pas en perdre une miette? Alors rendez-vous sur www.montaubanenscène.fr ou la page Facebook du festival.
CFM.
CFM.
En direct du Faubourg La Capelle. 101.2.
L'Esprit Rock. CFM.
Nord-Midi-Pyrénées.
Nord-Midi-Pyrénées.
L'Esprit Rock.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola. Hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite ! Alors on est en direct hein, sur la terrasse du Pontier à Albi dans le cadre du festival Pause Guitare pour ce Qu'est-ce qu'on déguste qu'on a décidé de faire spécial Acadie. Alors pourquoi on a décidé de faire cette émission spéciale Acadie? Parce qu'il y a toute une délégation d'artistes acadiens qui sont venus ici dans le cadre de ce festival, mais aussi il y a tout un tas d'autres personnes du tissu économique, scolaire qui sont venus aussi vanter finalement les bienfaits du Nouveau-Brunswick. Pendant 3 jours ici il y avait un stand devant le Pontier juste derrière la scène sur laquelle se sont produits les artistes acadiens qui présentaient aux albigeois et aux gens de passage le pays du Nouveau-Brunswick et notamment aussi la fameuse université que nous présentera peut-être plus en détail tout à l'heure notre ami Yves. Ça y est, j'arrive avec les prénoms. Et pendant que je vous parle, sont en train de s'installer. Mettez-vous autour de ce micro là avec les guitares peut-être, non? Tu crois? Enfin, ouais, vas-y, tu vas voir, ça va marcher. Prenez garde. Ça va les gars, on est en direct, hein. Alors on fait les réglages, ric-rac, comme ça. Ça va pour toi Aurélien? Merci à Aurélien de faire la partie technique de cette émission.
Bonjour. Et là, monsieur le matou, comment vous portez-vous?
Ah ben voilà Dominique
Gros. Je me porte assez bien, vous couchez.
Et musicien de Prenez Garde.
Montez en haut, je monte par derrière vous. Mais si votre mari arrive, où nous mettrons-nous? Et la titadilla, et la titadilla, et la titadilla, dili dam dam dam. Et la titadilla, et la titadilla, et la titadilla, dili dam dam dam. Il y a une cuve, tu t'y mettras dessous. Voilà le mari qui rentre et regarde partout. Et la titadilla, et la titadilla, et la titadilla, dili dam dam dam. Et la titadilla, et la titadilla, et la titadilla, dili dam dam dam. Le bon monsieur qui rentre, il soulève la queue, mais qu'as-tu là dessous. Et la titanilom, 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 et la titanilom. Poule qui couve, mais ça fait déjà 15 jours. Il faut pas la toucher, car on perdrait tout. Et la titanilom, et la titanilom, et la titanilom, dididom, dom, dom. Et la titanilom, et la titanilom, et la titanilom, dididom, dom, dom. Je me sac de tout perdre et regarde dessous. Il soulève la cuve, il aperçoit le matou. T'es la titanilom, 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 t'es la titanilom. Je vous assure, monsieur, je me ouairai ma chenou. Ça t'apprendra ma tout d'aller coucher chez vous. T'es la titanilom, 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 t'es la titanilom. La titanilom, dididom, dom, dom, la titanilom, la titanilom, la titanilom, dididom, dom, dom, la titanilom, la titanilom, la titanilom, dididom, dom.
Bravo. Prenez garde en direct dans Qu'est-ce qu'on déguste. Merci d'avoir accepté de jouer avec seulement deux micros pour reprendre deux guitares, un violon et ce drôle d'instrument à percussion, cette planche que Daniel met, Dominique met sous ses pieds.
Ça me fait penser à la chanson de Félix Leclerc. Moi, mes souliers, ils ont beaucoup voyagé. Oui. Toi, tes souliers, ils ont beaucoup tapé.
Oui, c'est mes souliers de noces.
Ouais, c'est des souliers de noces.
Oui, oui. Quand je m'ai marié, j'avais ces souliers-là. Puis vu qu'ils m'ont fait pâtir comme ça, je les fais pâtir à ça, je les frappe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est quand même bien, mais c'est pas représentatif parce que c'est, on a la contrebasse et c'est beaucoup plus,
ouais. C'est
beaucoup plus rempli. Oui, ouais, c'est ça. Live comme ça, c'est difficile, mais c'est quand même bien. C'était pour vous montrer comment ça se faisait.
Alors, on va prendre le thé, parce qu'il paraît qu'au Nouveau-Brunswick, prendre le thé, c'est quelque chose de très important. C'est vrai, ça?
Ouais. C'est important.
Pourquoi? Parce qu'ils ne poussent pas du thé là-bas. C'est l'influence anglaise?
C'est sûrement, certainement l'influence britannique.
mais c'est un moment social où on prend le temps de jaser.
On va jaser, donc on cause.
Oui, bien aussi que le café était moins accessible aussi. On n'avait pas de café, là. C'était une denrée très rare en Acadie, le café. Tandis que le thé, on nous l'avait forcé, puis après ça, on l'a pris.
Parce que ce thé de marque King Cole, il vient d'où?
Donc, il est fabriqué par une société qui s'appelle G.E. Barber, qui est originaire de Sussex. C'est dans le sud du Nouveau-Brunswick. Et cette compagnie fait plusieurs produits, mais leur produit fort, c'est le thé King Cole depuis 1867
déjà. Oui, mais enfin, me racontez pas de bêtises. Le thé, il pousse pas au Nouveau-Brunswick.
Non.
Donc, il vient d'où? Il vient de l'Inde?
C'est des traités qu'on avait signés avec les Anglais il y a longtemps passé. Non, je blague.
Vous ne savez pas d'où il vient, ce thé-là? Non.
On sait ce qu'il va, mais on ne sait pas ce qu'il devient. Non, mais il vient dans
vous
toutes les maisons.
Curieux, vous n'êtes pas curieux, Nouveau-Brunswick.
Non, nous autres, quoi, ce qui fait notre affaire, on le prend, c'est tout.
C'est
on
tout,
est comme ça,
pas.
Oui, on ne réfléchit voilà. pas plus que ça.
On apprécie les bonnes choses, on ne pose pas de questions.
Mais il y a un rituel du thé, comme on peut trouver un rituel du thé en Chine, au Japon, ou dans des pays comme ça.
C'était... Quand tu rentrais dans une maison d'Acadien, ils disaient tout le temps, veux-tu avoir une copée de thé? Une tasse de thé, mais c'était une copée de thé. On appelait ça une copée de thé. C'était comme, ils souhaitaient le bienvenu, t'es bienvenu chez nous. Puis si quand t'offrais pas le thé, c'est sûr, tu pouvais tenir ton casque dans ta main ou ton chapeau. Tiens, allez pas loin parce que ça sera pas long que ils vont te demander de partir, tu sais. Ouais. Si quand t'as demandé de prendre le thé, prendre une copée de thé, t'étais le bienvenu.
Un peu chez nous, c'est le café, quoi.
Café,
on dépasse boire le café à la maison.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu la
même chose. Café dans le nord de la France, chez les ch'tis, c'est ça, voilà.
Ça pousse aussi par ici, le café?
Oh, le café, non.
Ah ah!
On pose pas de questions. Hein.
Ça envoie jusqu'à bien nos origines.
Nous, on dit think simple. Tu penses simplement.
Oh, voilà. Oui, non, c'est vrai. Ben, voilà. Mais c'est quand même... Nous, c'est tout le temps relié à l'économie aussi. Ou aux moyens que les gens avaient.
Donc un truc pas cher, le thé pas cher.
Exactement, tu sais. Puis on avait en quantité qu'on voulait, tu sais là. C'est comme les biscuits à la melasse.
Bah alors,
quand la melasse est arrivée,
alors attends,
les
biscuits à la mélasse. Reparlons-en parce que là, quand même, là ces biscuits à la mélasse là, je vois qu'ils sont faits. Il y a de l'huile de palme dedans.
Bah oui, mais c'est que tout le monde veut avoir son petit ingrédient secret. Mais là, quand tu commences à vendre dans des magasins, tout ça, il faut que tu mettre des produits, il faut que tu mettes que la seule chose qui manque, c'est les quantités. Il y a peut-être juste une goutte de huile de palme. On ne sait pas, là.
En tout cas, c'est marqué dans la composition. C'est pas très bien, ça. C'est pas très beau. Parce que nous, on commence à boycotter de plus en plus tous les biscuits, tous les
trucs. On avait l'huile de morue, on avait l'huile de foie de morue, mais on était forcé à manger ça quand on était petit. On prenait une cuillerée d'huile à foie de morue.
C'est pas vraiment bon.
C'est pas bon. On voulait pas les retrouver dans les galettes à melasse, on a trouvé du palme. On a dit, on va prendre ça.
Vous êtes mieux informé en Europe, justement, de ce qu'est l'huile de palme que nous, on l'est en Amérique du Nord.
Oui.
Et il y a beaucoup d'éducation, je crois, qui reste à faire à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça, justement, que.
Ouais, moi, je regarde toujours les compositions. Effectivement, ouais. je commence à bannir de plus en plus tous ces produits qui contiennent de l'huile de palme.
Mais il faut dire, c'est pas fait maison. Hein. Ça, c'est fait. Ceux-là, ils viennent du magasin. Ceux que nos grands
français. C'est comme une bakerie qu'on appelle chez nous, parce que même en français, on disait une bakerie. Ouais. C'est quand même le fait de façon artisanale. Mais c'est juste qu'on a passé de l'artisanal.
Au semi-industriel.
Au commercial, plutôt. Pas industriel. Vous verrez pas des plein de sacs comme ça dans les épiceries. Tu vas les avoir dans les épiceries régionales, locales, mais tu le verras pas à la grandeur de Nouveau-Brunswick. T'sais, on n'a pas cette distribution-là. C'est quand même grand, le Nouveau-Brunswick. Là. C'est
pour pas que... Donc, pour en revenir à cette histoire d'origine des produits, tout à l'heure, on parlait de bio, etc. Comment vous êtes au Nouveau-Brunswick sur tout ce qui est bio, organique? C'est une lame de fond, là aussi?
Oui, ça commence. C'est sûr qu'il y a.
Plus important.
Oui, c'est plus important que ça l'était il y a de cela 10 ans, puis même que ça prend vraiment une tournure vraiment que moi, personnellement, étant donné que je suis vert, politiquement parlant, c'est vraiment. Moi je suis bien heureux de ça parce que, tu sais, il faut se tourner vers le bio.
On est un peu mieux informé que nos voisins du Sud,
oui.
Donc les Américains. Mais ça commence. On a beaucoup de marchés, des marchés les samedis matins où on va vraiment, c'est que des produits bio. On est plus conscient des choix qu'on fait avec la viande, les légumes, les fruits et tout ça. ça sent bien. On n'est pas là où sont les Européens encore, mais on n'a pas d'avance sur nos voisins du Sud.
Il est très bien ce taking call là. Ah si si si, il est
oui,
très
bien. Oui, mais sauce ta galette. Dedans.
Alors ça se prend toujours avec un nuage.
Ça prend une galette.
Moi je veux bien un nuage.
Allez,
un
petit nuage.
Ça fait un petit peu de lait. Les Acadiens à l'époque utilisaient le lait qu'on appelle le lait Carnation. C'était du lait en canne.
Oui.
Hop, moi aussi j'en veux un petit peu.
C'est quoi du lait Carnation?
Sauce ta galette.
Merci. C'est du lait en canne.
Sauce la galette. Hop, il y a un bout de galette, il faut saucer la galette. Ah. Attention.
Si vous effectivement, les galettes à la mélasse dans le thé, c'est très bon.
Ben, c'est-à-dire que c'est déjà vachement sucré la galette. Alors, quand on sauce la galette, après. Ben voilà.
Ah oui, c'est bon spécial.
Alors, cette fameuse mélasse, c'est parce que ça, c'est donc des gâteaux à la mélasse, des biscuits à la mélasse. C'est quoi cette mélasse? Ça vient d'où?
La Barbade. C'est ça? Oui, oui, oui. Oui, oui, ben oui.
Ça?
Donc, la mélasse, en fait, c'est le sous-produit de résidus de. Enfin, résidus de sous-produits de la distillation du rhum.
Exactement.
C'est pour ça que ça a un goût de pain d'épices.
Et c'est arrivé en même temps que les barils de rhum.
C'est importé de la Barbade.
C'est ça.
Et maintenant, c'est préparé, conditionné par une compagnie qui s'appelle Crosby, dans le sud aussi du Nouveau-Brunswick.
Du Nouveau-Brunswick.
Oui, et vendu partout dans le monde maintenant.
D'accord.
Oui. Oui.
La mélasse.
C'est de la mélasse.
Et moi, il fallait que je vienne en France pour apprendre que le taking cold venait du Nouveau-Brunswick, parce que je ne savais pas. Et c'est la première fois que je bois du thé en plus. J'ai vu mes grands-parents en faire, mais jamais mes parents ni moi, donc...
Avant ça, on avait le thé haché, qu'on appelait. Il n'y avait pas de poche, à ce moment-là, c'est une poche individuelle. Une poche de thé, ouais. Mais avant ça, c'était du thé qu'on mettait...
En poudre,
en poudre, c'est ça. Poudre.
T'as connu ça?
Ah oh, ben oui.
Des résidus de... Des résidus
je suis vieux,
thé.
Moi, là.
Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste? On a la chance d'avoir un prof d'histoire, alors on va en parler histoire un petit peu. Est-ce que vous avez exterminé quelques Indiens pour vous installer au Nouveau-Brunswick, Daniel Léger?
Non, c'est plutôt le contraire. C'est les Indiens vraiment qui nous ont permis de passer en travers l'après-déportation. S'il n'y avait pas eu les Autochtones au Nouveau-Brunswick, surtout, on serait peut-être pas là.
Alors, s'il parle trop, tu lui dis, hein. N'hésite pas.
Ça va.
Daniel.
Enfin, non, attends, j'ai pas étudié l'histoire. Fait que, oui, mais c'est sûr. C'est les Autochtones, parce que c'est ça, les Acadiens se sont réfugiés dans les bois à un moment donné. Après la déportation, pendant la déportation et tout ça. Puis les Autochtones.
Qu'est-ce que c'est que vous appelez la déportation?
La déportation, c'est lorsqu'il y a eu, à partir de 1755, les colonies, ben, déjà, les Anglais ont déporté. Vous savez ce que déporté veut dire? Déporté. Ils ont décidé en Acadie de déporter tous les Acadiens qui étaient dans la colonie française. Donc, ils déportaient un peu partout dans le monde, dans les colonies américaines. Il y avait en France, il y avait aussi Belle-Île-en-Mer, il y avait les, finalement, il y en a qui se sont rendus jusqu'en Louisiane par après, puis ils sont devenus les Cajuns de la Louisiane, qui est comme le même terme que les Acadiens, juste Cajuns, et tout ça. Donc, ils sont devenus des sujets britanniques. Et à ce moment-là, ben, il devait prêter le serment d'allégeance. Et s'il prêtait pas le serment d'allégeance, il était déporté. Donc, il y a beaucoup qui ont été déportés, à Grand Pré, un village qui est reconnu par l'UNESCO. Il y a eu à peu près 2200 Acadiens déportés, à l'année 1755. Donc, ça a été déporté un peu partout aux États-Unis.
Et c'est-à-dire, oui, c'est, ils étaient dans cette région, en Acadie.
Oui.
Et donc, on leur dit, mais toi, tu vas aller aux États-Unis, c'est toi, ça. Tu vas aller ailleurs. On a dispersé le peuple.
On les a mis sur les bateaux.
Les bateaux, ouais, puis les
on
bateaux.
On a commencé, premièrement, c'est qu'il n'avait, il était quand même une bonne, il y avait 15 à 18 000
Acadiens.
Ouais. Acadiens. Ouais. OK. On les avait emprisonnés dans l'église, on a voulu séparer les hommes des enfants pour pas qu'il y ait une rébellion. On a mis des hommes sur des bateaux qui étaient préparés pour les pousser en mer pour qu'ils s'en aillent. C'est aussi simple que ça. Ils s'étaient laissés à la dérive, puis ils sont partis, mais tout le long des côtes américaines, eux autres, ils essayaient de se retrouver un endroit, tu sais. Il y avait leur pays à eux autres, puis du jour au lendemain, pendant 3 ans, on chassait les Acadiens, on couroyait après pour les mettre sur des bateaux puis pour les envoyer en mer. Et il y en a qui sont revenus en France.
Et donc, c'est là que certains ont trouvé refuge chez les Autochtones, chez les Indiens à l'époque?
Oui, parce qu'on s'est sauvé. Il y en a qui se sauvaient dans le bois. Il y avait on appelait ça un camp de réfugiés dans le coin de Miramichi. C'est les autochtones qui ont pris soin, qui ont protégé, qui ont
caché.
Indiens,
c'était quoi les tribus d'Indiens?
Les Mi'kmaq.
Et c'est la même chose qui s'est passée dans la région du Madawaska. C'était vraiment les Acadiens qui sont montés du sud jusque dans la région nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et les francophones qui avaient un peu plus haut dans la région du Québec qui sont descendus à travers la rivière Saint-Jean, qui se sont rencontrés dans la région d'Edmundston, justement. Et c'est là qu'ils ont transmis, par exemple, le savoir de la fabrication du sirop d'érable ou de faire les raquettes pour marcher sur la neige l'hiver, pour les remèdes pour guérir le scorbut, pour guérir tout ce qu'il y avait dans ce temps-là parce que les hivers étaient tellement rudes. C'est comme ça qu'ils ont survécu.
D'accord. Donc, il y a eu une vraie rencontre, finalement, entre ces peuples.
Il y a beaucoup de villages acadiens qui ont pris le nom Mi'kmaq. Comme moi, j'habite un village qui s'appelle Bouctouche, qui veut dire grand petit arbre, en Mi'kmaq. Il y a le village Kouchibouguac, il y a le village Acadie, Chipogon, tout. Il y a beaucoup de,
la Mecque.
Beaucoup de termes acadiens, beaucoup de villages qui portent des termes qui sont des termes amérindiens.
Parce que c'était des régions que les Amérindiens visitaient. Parce qu'eux autres, ils se promenaient d'une région à l'autre. On faisait la pêche ici, on faisait la chasse de l'autre côté. Ça fait qu'ils connaissaient les régions. Les Acadiens se sont établis dans les régions qui étaient connues par les Mi'kmaq. Fait qu'ils ont pris le nom de...
Et alors, on parle beaucoup de nourriture, tout ça, mais lors de ces rencontres-là, est-ce que cette musique et ces chansons acadiennes se sont aussi là, un peu mélangées, métissées?
Non, il faut dire qu'à l'époque, les Mi'kmaq, les Autochtones, avaient leur tradition, eux autres aussi.
Ouais.
Il y avait leur chant, puis c'était vraiment inculqué dans leur... Dans leur tradition, là, il y avait un chant pour la chasse, il y avait un chant pour la pêche, c'était plutôt spirituel, c'était comme un genre de prière, de remerciement à la mère, à la mère terre de leur donner ce qui leur, ça leur prenait pour vivre, tu sais, là. Fait que, eux autres avaient déjà ça. Mais il y a des traditions qui se sont transmises entre peuples. C'est sûr que, tu sais, on a appris nous aussi à pêcher. On a appris à chasser, tu sais, ça fait qu'on on a appris deux en réalité parce que les ancêtres français c'était pas vraiment ça qui était leur tradition, ça fait que ils nous ont appris beaucoup de choses.
Vous écoutez Qu'est-ce qu'on déguste? Et alors pour le moment on est au thé. Moi, je me demande si je ne vais pas repasser au gin.
Ah oui, mais ça se faisait souvent. Ça, c'est encore une tradition.
On peut.
Tu commences avec le gin, puis tu finis avec le gin.
Est-ce qu'on peut mettre du gin dans le thé pour tremper les biscuits à la mélasse dedans?
Tout est possible.
Tout est possible.
Il n'y a pas d'interdit, en fait.
Il n'y a pas d'interdit. Pendant.
Il y avait donc ces 2-3 jours précédents de cette émission-là, un stand ici où il était écrit...
Expérience.
J'aime les mots de la francophonie. Expérience acadienne. Mais non, de l'autre côté, il y avait écrit émigration Nouveau-Brunswick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en quête de faire venir des forces vives chez vous au Nouveau-Brunswick?
Oui.
Ouais.
Le Canada, il faut savoir, c'est un des rares pays au monde à avoir une politique active d'immigration. C'est-à-dire que chaque année, on accueille en moyenne 250 000 immigrants de partout à travers le monde. Et la province du Nouveau-Brunswick a besoin, comme les autres provinces canadiennes, de travailleurs. Notre population est vieillissante.
Ouais.
On fait de moins en moins de bébés. Donc, l'immigration, ça va être... C'est nécessaire, ouais, si on veut survivre.
D'accord. Ouais. Et y compris dans les universités aussi, hein, puisque...
Oui, absolument, parce que y a, l'Université de Moncton, son histoire qui vient de plus de 50 ans, où c'est une université qui a été créée pour les francophones en Acadie. C'est la plus grande université de langue francophone unique au Canada, hors Québec. Donc souvent, on parle de l'Université de Moncton, les gens ne savent pas trop, ils connaissent le Québec, surtout quand on vient en Europe. Ah, je connais le Québec, mais je connais pas. Ah, vous avez une université francophone, elle a un nom, Moncton, déjà que c'est anglophone, mais bon, c'est une université francophone. Donc, on a une population étudiante qui vient de partout, en Europe, en Afrique, même quelques Asiatiques aussi. Ils veulent venir étudier en français. Et l'avantage, c'est que parce qu'on est entouré, en fait, d'anglophones aussi, parce que le Nouveau-Brunswick est un tiers francophone, deux tiers anglophone, l'anglais s'apprend naturellement par osmose parce que c'est dans notre entourage. Donc, ils repartent souvent avec une éducation en français, puis parler les deux langues avec l'accent nord-américain en anglais aussi.
Mais c'est pas dur de s'adapter au climat quand même. Moi, j'aurais trop peur d'avoir froid chez vous.
Non, non, non. Il n'y a jamais de mauvais temps. Il y a juste du monde pas habillé pour le temps qu'il fait.
Ah. Okay. On a du jean pour nous garder au chaud.
Il y a du jean et des ours. Ouais. Ouais. Ça va bien.
Non, mais tu sais, on s'habitue de un, on s'habitue très vite. Les gens qui arrivent de l'extérieur, ils s'habituent, puis même qu'ils aiment. Ouais. Tu sais, ils aiment le climat. Tu sais, c'est pas. Puis moi, je suis venu ici à l'automne tard, puis où c'était froid, puis c'était. C'était froid. Par chez nous, c'est fret. C'est pas pareil.
C'est fret.
Ici, c'est froid, puis le froid passe en travers du corps. Nous autres, le fret, il reste à l'extérieur, puis t'as rien qu'à te protéger, puis t'es correct. Là, t'sais. Mais non, mais c'est pas la même chose. La neige, là, ça crée comme une espèce d'isolation. C'est pas...
Il le vend bien, son pays.
Ouais, on arriverait presque à y croire.
Ouais, t'as envie de partir de suite.
On voulait l'amener, mais en amener de la neige, on déconne un petit peu trop tard.
Parlez-moi un peu de ce passeport acadien.
Juste après un peu de jazz, si tu veux bien. On passe au passeport acadien. Ouais.
C'est vrai qu'il y a du jazz, j'avais oublié.
Oui, ce soir, j'avais choisi le vibraphoniste Danny Doris parce qu'il joue dimanche soir à Montauban. Et Danny Doris aime bien faire des disques avec des musiciens différents. Là, il avait convié l'accordoniste Marcel Azola et nous l'écoutons dans un morceau qui s'appelle Farandole. Danny Doris, Fanfreluche.
On déguste la suite. Alors, on est en train d'installer à nouveau des micros pour Daniel Léger. Et puis aussi un autre micro pour Dominique Bro, parce que Dominique Bro va nous jouer d'un instrument ancestral. Mais on en parle après. D'abord, le passeport.
Passeport acadien, Société nationale de l'Acadie, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, en fait, c'est un dépliant dans lequel on peut apprendre un peu de l'histoire de l'Acadie. C'est sous forme de passeport canadien, mais nous, on l'a nommé passeport acadien. Et dans ce document-là, on y retrouve les quatre provinces du Canada atlantique, donc une description de chacune des provinces, mais aussi, par exemple, une description du drapeau acadien. Alors, on apprend que le drapeau acadien, c'est un drapeau français, qui a été choisi pour justement faire honneur à nos ancêtres, mais dans lequel on a ajouté dans le coin gauche une étoile, hein, qui est l'étoile qui représente la religion des Acadiens, qui était le catholicisme à ce moment-là.
Vous êtes cubéni encore en Acadie ou pas?
La religion est encore présente, oui. Ouais, mais fort, un peu fortement. Comme partout ailleurs, un petit peu moins.
Ça part un peu, voilà. Ouais. C'est pas la religion McDo, mais pas loin. Donc on trouve eh ben, la croix de la déportation, l'explication. Évangeline.
Oui, Évangeline, c'est un personnage qui a été inventé par une de nos grandes écrivaines et qui c'est un poème en fait qui parle de l'Acadie. En fait, Évangeline, ouais, c'est Longfellow, oui, c'est ça, c'est l'écrivain Longfellow, c'est pas une écrivaine, excusez-moi. Et qui parle de l'Acadie, c'est la femme qui attend son mari, qui est parti en bateau, qui a été déporté, qui va revenir. C'est un peu de tout ça. C'est une légende.
Donc c'est encore très vivant votre histoire de déportation. Absolument. Parce que je vois que en 2003, la gouverneure générale du Canada a signé la proclamation royale reconnaissant les torts causés aux Acadiens lors du grand dérangement, c'est-à-dire la déportation. Donc c'est encore un truc que vous, enfin, qui est vivant dans votre tradition, dans votre culture, ce grand dérangement.
Oui.
Vous voulez des excuses publiques? Mais moi je vous les fais très volontiers. Mais peut-être vous en foutez que je vous fasse des excuses. Moi je suis pour rien dans votre histoire.
C'est l'autre là-bas.
De nous avoir abandonnés, oui. Mais on y apprend aussi, par exemple, que l'union c'est la force. La force c'est le slogan de l'Acadie. Alors de travailler ensemble, la collaboration, d'être une voix pour un seul peuple, c'est notre.
Bon, alors nous, on est français du Sud-Ouest. Si on va en Acadie, est-ce qu'on est reçu vraiment les bras ouverts?
Bien sûr.
Partout.
Mmh.
On va pas dire salaud de français, machin, etc.
Non, pas du tout. Alors, on vous attend. Vous êtes nos cousins et cousines.
Surtout avec l'accent du Sud. On est ouvert, on est accueillis avec du gin, des gâteaux à la mélasse et un fricot.
Et des ploys
et un fricot. Mais c'est génial, on va venir vous voir.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, c'est en musique, s'il vous plaît, avec un duo impromptu.
Donc c'est la première fois qu'on joue ensemble, puis c'est que Dominique va jouer de la guimbarde. Puis la guimbarde, ben, c'est ça, c'est un ancien instrument.
Le plus vieux
instrument qu'on retrouve en
Acadie.
En Acadie, ça fait que c'est une chanson qui s'appelle Daniel Boone, puis sa queue de raccoon. En hiver dans les gros frettes, il enfile ses ratchettes. En hiver dans les gros frettes, il enfile ses ratchettes. Le jeune trappeur de lapins, il n'avait pas peur de rien. Il a donné trépeau et au bois, levé ses trapeaux et ses foies. Personne ne lui avait montré tous les pièges de ce métier. Personne ne lui avait montré tous les pièges de ce métier. Il avait appris par lui-même, ça allait lui causer des problèmes. Il a donné très haut et au bois, levé ses trapeaux et ses froids. Il a donné très haut et au bois, levé ses trapeaux et ses froids. Daniel Boone, avec sa tue dragoon au bois, il s'en allait, c'était pourtant le décollet. Un jeune garçon ben innocent, sans un poil au menton, l'appelait de Daniel Boone avec sa tue-dragoon. Un trappeur doit être usé, c'est la loi du plus fort. Un trappeur doit être usé, c'est la loi du plus fort. Il ne l'avait pas compris, comme bien d'autres avant lui. Il a donné très haut et au bois, enlevé ses trapeaux et ses froids. C'est lui qui s'est fait prendre, il est tombé dans un vieux piège. C'est lui qui s'est fait prendre, il est tombé dans un vieux piège. C'est le piège des jeunes filles, tout comme être pris par la juive. Il a dans les trucs, oh et au bois, levé ses trappes, oh et ses froids. Il a dans les trucs, oh et au bois, levé ses trappes, oh et ses froids. Daniel Boone, avec sa tue raccoon au bois, il s'en allait, c'était pourtant le décollet. Un jeune garçon ben innocent, sans un poil au menton, l'appelait Daniel Boone avec sa tue raccoon. Oh, il n'est plus le Daniel Boone avec sa tue raccoon. Oh, il n'est plus le Daniel Boone avec sa tue raccoon. Hey!
Merci. Dominique Brault à la guimbarde, Daniel Léger au chant. Merci, messieurs. C'est quoi ce chant que tu viens de faire? Ben, tiens, regarde, hop, tu veux partir avec si tu veux. Okay. Partira pas loin parce qu'il y a le calme.
C'est un chant que j'ai composé. Donc, c'est une chanson, mais qui est inspirée du traditionnel. C'est juste que c'est Daniel Boone. Je sais pas si vous connaissez Daniel Boone. Et la dernière frontière, là, aux États-Unis.
Le
trappeur, c'est
trappeur,
ça.
Ben, oui.
C'est l'histoire. Moi, je m'appelle Daniel. Donc, c'était Daniel tout, lorsque j'étais tout petit. Je me promenais avec mes collets à lapin. J'allais dans le bois. Et c'est moi, finalement, qui s'est fait prendre d'un piège. C'était le piège de l'amour. Ça fait mal.
Et le raccoon?
Puis, la queue. Ben, on dit une queue de raccoon. Donc, une queue de raton laveur. Donc, j'avais le chapeau avec la queue de raton laveur. Donc, Daniel Boone et sa queue de raccoon.
Je sais pas quelle heure il est, je sais pas où on en est dans cette émission. Ce serait peut-être le moment. Oh oui, ce serait peut-être le moment de parler de ce dont est venu faire Isabelle Doucet-Philippe. Vous êtes venu ici en France, pas innocemment. Vous êtes venu rencontrer des entreprises.
Pour les affaires.
Elle est venue faire du business.
Elle s'occupe des affaires.
Donc, c'est quoi exactement l'activité, là, justement?
Je travaille pour une société de la Couronne. Donc, c'est une agence gouvernementale chargée du développement économique. On travaille avec les sociétés canadiennes qui exportent ou on cherche des investissements chez nous. Donc, moi, mon rôle principal, c'est de trouver des partenariats pour nos sociétés exportatrices au Nouveau-Brunswick. D'accord. Donc, vendre nos produits en France.
Pour tous les produits, pour n'importe quel produit, vous avez un secteur en particulier, plutôt les gâteaux à la mélasse, plutôt...
Du sirop d'érable au homard, au TIC, biosciences,
ouais.
Et ça, multisectoriel.
Et alors, ça marche?
Oui, ça là, regarde vraiment bien. Je suis très satisfaite de mon programme. Grâce à la Chambre de commerce Midi-Pyrénées, que je remercie d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer différentes entreprises au cadre de la semaine. 2 journées à Toulouse, 3 journées à Albi, dans le secteur des biosciences, du bois, agroalimentaire. Et j'y ai déjà identifié plusieurs opportunités. Donc,
puis avec la chute de l'euro par rapport au dollar, ça avantage quand même le dollar canadien.
C'est certain que ça avantage, mais surtout l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, qui devrait entrer en vigueur d'ici 12 à 18 mois, va ouvrir énormément de portes, autant pour nous que pour vous.
Vous savez que celui-là, nous, on l'aime pas trop, celui-ci. Hein.
Pourtant, vous allez pouvoir importer votre foie gras et votre fromage chez nous.
Cet accord de libre-échange, on a trop peur de voir arriver chez nous.
Tous les produits OGM, tous vos
bœufs aux hormones, jusqu'à maintenant, on a réussi à maintenir hors de nos frontières et à garder chez vous.
On a des
dans vos McDo à vous.
On a des élections qui s'en viennent à l'automne, probablement quand on va rentrer plusieurs députés verts qui vont mettre le poing sur la table et qui vont dire au gouvernement assez, c'est assez. Faut s'occuper de nos producteurs locaux, privilégier la bio et l'énergie verte et tout ce que tu voudras. Fait là, on va avoir une belle échange. Je suis sûr de ça.
Ouais.
Ah ouais.
Donc, le ministère de l'Agriculture chez nous vient de lancer une stratégie pour encourager le développement des produits locaux. Donc, nous aussi, les OGM, on commence à vouloir...
Oui. Bon, enfin, nous, ce fameux traité transatlantique, tu sais, ici, ça fait grincer hein, pour le moment. On n'est pas pressé de le voir arriver, quoi. Le plus tard sera le mieux. Non pas qu'on ne veut pas faire du commerce avec vous.
En réalité, on devrait avoir plus de crainte que vous. Vous êtes beaucoup plus gros que nous, là. Écoute, vous n'avez pas de problème à y avoir là.
Non, mais
les producteurs
avec
de fromage chez nous, ils sont sur les nerfs aussi, là.
Ben, oui, oui.
On va faire avec. On va,
Mais si pour tout ça, il faut se taper quand même le bœuf aux hormones des Américains, c'est quand même dommage.
Mettez vos exigences, on mettra les nôtres, puis je suis sûr qu'on va être capable. Un entente, c'est fait pour s'entendre.
On va se trouver un accord.
On va s'asseoir, boire du gin. Du thé.
Tu vas en manger du bœuf aux hormones.
On a un peu de crainte qu'il y ait du homard aux hormones, un de ces quatre.
Non, ça
risque pas d'arriver, c'est impossible.
Il y a du canard, non, le canard il gèle sur pâte.
Non, le canard, il s'en va dans le sud.
Ouais.
C'est là qu'il fit dans d'hormones, après ça il s'en vient chez nous, il est boosté au bout, mais.
Je vous présente, je vous le présente à nouveau, parce que vous l'avez vu et vous l'avez entendu depuis le début de cette émission, notre spécialiste bande dessinée, qui n'a pas de micro, mais on va en trouver un micro. Tiens, regarde, je te donne le mien. Alors, il a toujours une rubrique bande dessinée dans cette émission. On n'a toujours pas compris pourquoi, depuis 7 ou 8 ans que l'émission existe, mais il y a une rubrique BD.
Bah, c'est-à-dire que ça m'occupe un peu, puis ça me fait lire au lieu de regarder la télé de temps en temps. Et là, du coup, je me suis intéressé à nos amis acadiens et j'ai trouvé, parce qu'il existe chez eux, un super-héros qui s'appelle Acadiman, qui a été créé par Daniel Omer Leblanc, pas Omar, hein, comme on a dit tout à l'heure, mais Omer. Donc, il est né, coïncidence, à Moncton. Alors, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc, il est né en 68. Il a vécu une dizaine d'années à Montréal. Il a fait des études de cinéma, donc un certain nombre de points communs avec beaucoup de nos invités, on va voir. La littérature anglaise aussi, à l'université Concordia. Il a même été musicien. Il a fait partie du groupe, alors je ne connais pas du tout, The Great Balancing Act. J'ai écouté un petit truc, c'est assez électro, je crois. Il a sa propre maison de disques appelée La Menuiserie depuis 2009. Il publie aussi de la poésie, il est vraiment assez éclectique. Et en 2005, il crée la première télésérie animée acadienne avec justement son personnage Acadiman, le premier super-héros acadien avec lequel il va gagner même de nombreuses récompenses. Il publie également dans des revues, dont Kaboom en France, une revue de bande dessinée. Alors, trois BD d'Acadiman seront ensuite publiés à partir de 2007 et deviendront apparemment des best-sellers au Nouveau-Brunswick, où il vit actuellement. Alors, pareil pour la prononciation, à Memram Cook. Alors, je sais pas, donc, apparemment, ça a l'air, tout le monde a l'air de connaître. À tel point qu'il fera des conférences dans des écoles où son personnage de Acadiman fait fureur. Alors, Acadiman, donc, est le premier super-héros acadien, enfin, un genre, hein. Il a vécu un temps dans les bois, donc un peu comme Daniel, qui nous l'a expliqué tout à l'heure, où ses parents l'avaient abandonné. Je sais pas si c'est le cas de Daniel. Puis il est allé vers la grande ville. Alors le café, pas le gin, est à Acadiman ce que les épinards sont à Popeye. En grand amoureux de son intérieur, par contre il aime pas trop la marche ni le ski, il aime traîner dans les cafés, se moquer du monde et se faire chouchouter. Acadiman est le pirate officiel de la langue française, il arbore d'ailleurs pour sa tenue, outre une sorte de casque d'aviateur en cuir muni de lunettes, un pantalon rouge, un bomber's vert, des bottes marron, mais surtout un t-shirt orné du drapeau français. Son émission de télé favorite est Passion, et il écoute toutes sortes de musiques où il y a des cuillères, donc là ce soir c'est raté pour vous. Sa mère est fan de Julio Iglesias, il a un chat tigri qui a un... Alors là, vous allez m'aider, un butt odor problème, ça veut dire qu'il pue du cul en fait, son chat. C'est butt odor problème.
Ouais, c'est ça.
Il est entouré de toute une batterie de personnages étonnants, Johnny Diep, qui est apparemment diepnamien, bon je pense que c'est un jeu de mots, Coqui, qui est la sorte de conscience à tête de tortue, Farty, son mentor lorsqu'il vivait dans les bois, donc vous êtes peut-être croisé, Daniel, une nouvelle fois. Sa nourriture favorite, alors là par contre, je vais laisser la place peut-être à un Acadien qui va me le dire, ça sera peut-être plus sympa, c'est à partir de...
Ses favorite foods sont des tétines de souris, la passe-pierre, des pêtes de sur, des tétines, des poutines à trous, des poutines acadiennes, des fried piss clams, du houmar, puis des chiards.
Alors, est-ce que c'est des trucs qui existent vraiment?
Oui.
Ouais, d'accord. Ah, et
oui.
C'est bon?
C'est très bon.
Ah oui, d'accord. Bon, oui. Tout le monde est d'accord. Alors, puisque j'en ai un sous la main qui a le bon accent, peut-être on peut se faire un petit gag. Alors, donc, pour mettre en situation, c'est Acadiman et son copain Farty qui sont en train de lire l'un National Geographic et l'autre Play Guy qui est apparemment l'équivalent de notre Playboy.
Hey, Acadiman, qu'est-ce que Playguy et National Geographic ont en commun? Quoi? Ils ont tous les deux des super belles places qu'on pourrait jamais visiter. Hey, hey.
Voilà un peu le genre d'humour qu'on trouve dans cette BD. Donc, c'est créé par Daniel Omer Leblanc et ça s'appelle Acadiman, un héros acadien.
Allez, qu'est-ce qu'on déguste toujours depuis la terrasse du Pontier en direct à Albi? On est place du Vigan. Ça y est, le vent se lève un peu, ça devient...
Avant, le Pop Club, il était à la terrasse du Fouquet. Bah maintenant, nous, qu'est-ce qu'on déguste? On est à la terrasse du Pompier, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal, on est bien.
Ça arrive.
Hein, ouais. On est bien. Moi, ce soir, dans le cadre du festival Post-Guitare, j'irai voir Malicorne, parce que j'ai été bercé à ça quand même.
On y soit qui Malicorne.
Quand j'étais tout petit. Mais en attendant, on est toujours là avec nos amis acadiens. Et on a des questions à vous poser, messieurs, dames.
On va vous faire un petit questionnaire gourmand.
Alors,
tu commences.
Moi je vais commencer.
Allez.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre cuisine comme ustensile ou comme ingrédient obligatoire? Alors, par exemple,
la patate. La pomme de terre, écoute, on la fait cuire de toute façon, de différentes façons, c'est juste incroyable. Nos mères avaient de l'imagination à savoir quoi en faire pour nous faire manger des patates parce que c'était le seul légume qui tenait le coup jusque presque à la récolte de l'année d'après, tu sais. On manquait de viande, on manquait de poisson, mais on manquait jamais de patates.
Patate aussi?
Absolument.
Encore aujourd'hui, dans ta cuisine, c'est la patate.
D'ailleurs, saviez-vous que la compagnie McCain vient du Nouveau-Brunswick et le siège social est toujours au Nouveau-Brunswick?
McCain's, la frite, industrielle que tu fais cuire, que tu fais cuire au micro-ondes. Mais attends.
Bon, mais là, si tu comptais venir faire des affaires en France, tu peux repartir.
L'émission s'appelle Qu'est-ce qu'on déguste?
On n'en veut pas du bactéries des OGM. Oh là 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 là.
Après, moi, le président de on a des micro-ondes.
C'est les patates.
C'est les patates, absolument.
Daniel, pareil, les patates.
Les patates, oui.
Les patates. Ok.
Faut dire qu'on a des micro-ondes à bois, nous autres. Hein.
Ah oui, d'accord, oui, bah, très bien. Oui, bon,
la combustion lente.
Oui. Vous partez sur une île déserte, voilà, dans le golfe du Saint-Laurent, je ne sais pas, là, il n'y a vraiment personne. Qu'est-ce que vous emportez en priorité?
Du sirop d'érable.
Du sirop d'érable.
Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Comme nourriture, qu'est-ce qu'on apporte?
Ce que vous voulez. Non, ouais.
Je dirais sirop d'érable.
Sirop d'érable, ouais. Aussi. Daniel, tu as déjà fait trois fois le tour du monde, donc lui, les îles désertes, tu connais.
Ouais, c'est ça.
Si c'est pas de la nourriture, c'est ma guitare. Sinon, j'apporterai le frigo à mon père. Mon père. On dit comme le frigo à mon père.
Le quoi? Ouais,
le frigo.
Le frigo. Le frigo.
Le frigo. Le frigo. La soupe, là.
La soupe.
Le
ragoût. Ouais, mon père fait du très très bon frigo. Ouais.
Moi, c'est du pain. Du pain de pays qu'on appelle chez nous.
Ouais.
Ça, du pain, c'est. Tu peux vivre des centaines d'années juste à manger du pain.
Ouais, mais enfin, ça rassit vite hein, sur une île déserte. Fais gaffe quand même. Vaut mieux emmener de la farine.
Une question à vous poser. Est-ce que vous mangez des champignons? Est-ce que vous allez à cueillette de champignons?
Non.
Personnellement, moi, non. Je ne voulais pas répondre pour tout le monde, mais personnellement, moi, non.
Et les Canadiens ne mangent pas de champignons?
Pourtant, il y en a. Il y en a, mais il y en a qui nous fait rire.
Parce que nous, en France, on doit manger entre 25 et 30 variétés de champignons.
Quand on grandit, on a peur des champignons. On a peur de ce qu'on voit dans la forêt parce qu'on nous dit toujours que c'est poison. Donc, on n'ose même pas y aller, ni les toucher, ni même les regarder.
Oui.
Parce que la superstition veut que si on donne un coup de pied à des champignons par terre, il va pleuvoir le lendemain. Donc, on tient très loin des champignons.
Non, c'est vrai, nos parents nous faisaient vraiment peur avec ça parce qu'eux autres avaient peur qu'on s'empoisonne avec des champignons.
Oui.
Fait qu'on ne touchait pas à ça.
Ici, on adore les champignons. Mon père a mangé une vingtaine de variétés différentes. Il doit y avoir des champignons comestibles au Canada.
Puis j'en ai sur ma terre, il devrait en avoir. Tiens, il passe en là. Ça, c'est la radio concurrente. Hein?
Ah, ben ça, tu as vu.
Enfin, il se prête.
C'est un nouveau jingle.
C'est le brouillage.
Qu'est-ce qu'il ramasse?
Non, mais c'est parce qu'on a parlé de champignons, c'est les flics. Non, mais on parlait pas de cela, messieurs.
Question.
On laisse les pompiers.
Bah, tout à l'heure, une question pour continuer le questionnaire gourmand. Du coup, tout à l'heure, j'ai entendu Daniel qui a parlé d'amour dans la forêt. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a cuisiné? S'il devait cuisiner par amour, qu'est-ce qu'il cuisinerait?
La question, c'est la dernière fois que vous avez cuisiné pour séduire, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez cuisiné?
Du hamard. C'est du hamard.
Ça a marché?
Du hamard. Je fais cuire le hamard. Puis, c'est ça.
Allez.
Moi, dans mon cas, c'est du sipat. Le sipat, c'est un mets traditionnel qu'on fait pendant le temps des fêtes. C'est un mélange de différentes viandes, de viande sauvage surtout, avec des patates, puis une pâte par-dessus en 6 étages, qui cuit pendant 6 heures au four.
C'est quoi la viande sauvage?
Ben, c'est du chevreuil, de l'orignal, du lapin.
Du lièvre.
De l'orignal.
Ouais, mais en fait, c'est une recette pour l'assommer, le mec, là. Et du coup, il peut pas se sauver après, c'est pour ça.
Ah, il est plein.
Yves?
C'était du saumon sur une planche de cèdre sur le barbecue, avec bien sûr des pommes de terre, des patates et quelques légumes.
Un saumon sauvage, hein, pas un saumon de Norvège nourri aux
autres. Ah non, c'est du saumon que je suis allé pêcher moi-même.
Ouais. Alors, pardon.
J'allais dire une casserole de fruits de mer, avec du homard, du crabe, des pétons, du saumon.
Des crabes?
Des crevettes.
Ça peut faire double effet, ça. C'est pour séduire et puis... Tu le réinvites le lendemain si ça t'a pas plu, comme ça. Après, hop.
Puis moi, c'était des pêtes de sœur.
Ah. Des?
Des pêtes de sœur. C'est un dessert.
C'est un dessert, très bon dessert.
C'est une brioche à l'érable, hein, au sucre d'érable.
À la cannelle.
Ouais, ça a bien marché parce que je lui avais de la cannelle, oui. Ça fait 32 ans que je suis marié, c'est que ça a bien marché.
Ah oui, ça a bien marché.
Personne n'a fait un bouilli de pâtes de cochon salé.
Non, ça c'est bon, par exemple.
Ouais, bon, mais c'est pas
on l'a oublié. Non, on est plus habitué au neck bone. Le cou du cochon. Le neck bone, qu'on appelle.
D'accord,
ouais.
Le cou de cochon.
Oui, parce que c'était salé, ça, dans les
dans des petits tonneaux.
Dans des petits tonneaux avec du sel, puis ça, il fallait dessaler ça 3 jours avant. de le manger, sinon ta pression monte jusqu'au bout. Mais c'est bon. Avec des patates, du chou, du navot, des carottes. Ah, c'est...
Des haricots.
Oui, des cosses.
Des cosses fraîches.
Et alors, on a une autre question dans notre questionnaire gourmand que les gens ont souvent du mal à comprendre. Alors, comme vous venez de loin, en plus, vous n'allez pas la comprendre de suite.
Et vous n'allez pas le redire, c'est bien.
Mais j'adore la poser. J'ai honte, mais j'aime ça.
Bon, on en a parlé tout à l'heure. Moi, par exemple, c'est le Nutella et le McDo. Voilà, comme ça, je suis cramé.
Moi, c'est les boîtes de raviolis froides, tu vois.
Oh, ouais. J'ai honte, mais j'aime ça. Quelle nourriture,
Oh, ça peut être. C'est pas obligé d'être une nourriture, là.
Ils ont honte de rien, surtout.
On a hâte, on a hâte de beaucoup de choses, hein.
Moi, j'ai honte, en fait, de ne pas aimer le homard. Parce que tout à l'heure, je l'ai présenté et je vous l'ai fait goûter, mais je sais pas si vous êtes aperçu, j'en ai pas mangé. Parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'étais très malade. Et donc, j'ai honte de ne plus aimer le homard. Je suis incapable.
C'est le plat national acadien.
Ouais.
Reprenez-lui son passeport acadien de suite.
Moi, je vais vous dire, ce qui me gêne le plus, puis ma femme me dispute à toutes les fois que je le fais, mais dans mon macaroni ou mon spaghetti, je mets du sucre.
Ah ouais?
Essaye ça, tu vas voir. Tu vas être surpris. Non, mais c'est bizarre. Puis on fait ça depuis qu'on est tout petit. Chez nous, à la maison.
Des spaghettis au sucre.
Oui, on saupoudrait de sucre. Puis on mangeait ça comme ça. C'est bizarre. Hein? Ah ouais. D'autres, vous mettez du fromage qui pue, là.
Ouais.
On met du gruyère, on met pas du fromage.
Ça vient au même. C'est juste que. Non, mais moi, je mets du sucre. Vous essayerez, vous allez voir.
Ils doivent tous être diabétiques, à force. Hein, parce que.
Non, le sucre d'érable dérange pas le diabète. Hein,
ah bon, c'est vrai?
Non.
Ah
ouais. Un diabétique peut manger du sucre d'érable et du sirop d'érable.
Ah bon?
Là, je ne devrais pas dire ça, on va peut-être me faire sauver. Non,
mais c'est alors, vrai. J'ai honte, mais j'aime ça.
Moi, j'assume. J'aime tout. J'en ai pas honte.
Il y en a pas un qui aime bouffer des McDo, des trucs vraiment de la bouffe nord-américaine.
Oui. Du ketchup sur les frites.
Oui, genre.
Ça compte, ça?
Ouais.
Ah, ok, j'aime le ketchup.
La poutine aussi, moi j'ai une faiblesse pour la poutine. La poutine, vous connaissez la poutine canadienne?
Oui, c'est le...
Avec le fromage.
Et les pommes de terre, justement, des frites.
Puis les frites. Puis de la sauce.
Et de la viande à l'intérieur.
Non. Pas de cholestérol.
C'est des poutines râpées.
Ouais. Ah,
non, 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 des vraies frites, McCain, avec du fromage en crotte. Puis de la sauce. Peu importe la sauce, puis tu mets ça dans le micro-ondes quelques 30 secondes, puis le fromage fond, puis c'est cochon.
Avec des McCain.
Ah,
ben voilà, tu vois, j'ai honte, mais j'aime ça, c'est exactement
voilà, ça. C'est cochon. Non, on va le garder au Panthéon, tu sais, on va l'isoler, on va le couper, ça reviendra en boucle. Parce que bouffer des McCain au micro-ondes avec du fromage qui
On va en faire un jingle.
Oui.
Non, parce que les Américains, ils rigolent pas, tu sais, après, avec les droits d'auteur. Donc,
Ouais, McCain... Ah non, mais là, il faudra nous faire le papier d'autorisation. Sinon, c'est 10 000.
Bon, ben voilà, on va arriver au bout de cette édition de Qu'est-ce qu'on déguste en direct de Post Guitare Albi, depuis la terrasse du Pontier. C'est quoi la suite pour vous, messieurs, dames? Vous allez repartir... parce que vous êtes arrivés super vite, là, donc j'imagine... vous êtes arrivés mardi, je crois.
Lundi.
Vous avez beaucoup joué sur plein de scènes. Je crois que c'est pas fini. Vous allez continuer de jouer pour les uns.
Pour Prenez Garde, trois des membres s'en vont à Toronto dès le 13 ou le 14. On va jouer à Toronto aux Jeux Panaméricains. Après ça, on retourne à la maison pour un petit bout. Puis on revient pour l'Interceltique à Lorient en France.
Ah oui, d'accord. Non, ouais. Vous avez un bilan carbone plutôt naze. Hein. Daniel?
Ben moi aussi, je joue un peu par chez nous, au Nouveau-Brunswick, en Acadie. Un peu, j'ai plusieurs. Je vais jouer par là, surtout. Mais je reviens. Je viens d'apprendre que je vais revenir pour un certain à Lorient. Ça fait que ça va être fun.
Ah ben c'est cool.
Ben oui.
Est-ce qu'on peut trouver ton livre dans nos librairies ici?
Pas encore, parce qu'il est en Acadie tout de suite. Puis on fait un essai, puis ça va bien, donc ça peut se faire qu'on vienne en France. Là.
On peut le commander sur Internet ou
oui,
pas?
Oui.
Ah,
oui.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Objectif Katahdin. Katahdin, qui est un mot amérindien, justement, qui veut dire la grande montagne. C'est K-A-T-A-D-H-I-N, Katahdin.
Katahdin.
Oui, donc c'est la montagne qui se trouve au Maine. Donc c'est un sentier que j'ai parcouru pendant 6 mois, les montagnes.
Voilà, donc un récit du vécu de ton aventure.
C'est ça.
Ça marche. Et pour les entreprises,
donc on va faire des suivis suite aux très bonnes discussions pour revenir, je l'espère, cet automne avec des entreprises qui viendront signer des contrats.
OK.
Mais pas de McCain. On en a déjà. Mais le rhum, le tuya, le rhum, le gin.
Ça, je vais l'amener. OK, il n'y a pas de problème. Il y a par chez nous.
Oui, oui.
Bon, ben voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, de nous en avoir appris encore un petit peu plus. Tu veux faire un petit agenda?
Oui, un petit agenda, parce que ce soir, on est à Albi. Alors, il y a Post Guitar, bien entendu, mais il y a aussi un truc vachement important. Il y a une expo au Moulin Albigeois avec Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise extraordinaire et une énorme artiste contemporaine française qui s'appelle Orlan, qui expose Temps variable et Baiser de Méduse. Ça dure du 11 juillet au 25 octobre et le vernissage, c'est ce soir. Il faut y aller voir ça.
D'accord.
Magnifique.
Moi, on m'a dit qu'il fallait absolument aller à Montricou en Tarn-et-Garonne ce soir parce qu'il y avait In Extremis qui jouait, qui faisait un tribute to Queen. Voilà.
Ah, c'est vrai.
Le message est passé. Si vous voulez en entendre plus, en savoir plus sur les artistes acadiens, eh bien, sachez que le Centre de ressources internationales et acadiens se trouve sur le net acadie-europe.com. Et alors là, vous pouvez découvrir gratuitement l'ensemble de l'œuvre acadienne de ces artistes qui sont là présents aujourd'hui. Merci, messieurs.
Merci.
Merci Aurélien pour la technique de cette émission. Merci à toute l'équipe de CFM d'avoir été présent pour ces directs depuis Post Guitar. Maintenant, on va pouvoir aller boire des coups. Merci Georges, merci Jonas, merci Audrey, merci Lionel. Merci Nathalie, merci Corinne et merci à toute l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste évidemment. Salut.
CFM.